With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
En fait, il y a plein de gens qui ont cru à ce projet. Il est, en fait, si on réfléchit, il est pas c'est bête comme chou. J'ai pas inventé le crowdfunding. Le crowdfunding, ça existe depuis, depuis hyper longtemps.
T'as assemblé plein de d'outils le fait de qui le sont alignés.
En fait, c'était d'en faire quelque chose de collectif.
Salut et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss et je suis passionné par la créativité que je considère comme une quête initiatique remplie de découvertes favorisant une meilleure connexion à soi et aux autres. Qu'il s'agisse d'illustrations ou de podcasts, mon but est d'élargir le champ des possibles en créant des ponts et en favorisant des rencontres. Pour en savoir plus, vous pouvez me suivre sur Instagram à Jérémy Kleiss ainsi que sur senscreatif-podcast. Et après un petit break cet été, je suis hyper content de vous retrouver. Mais avant de discutailler à tout va, il est temps pour moi de vous parler d'Adobe Max, la conférence officielle d'Adobe qui va vous hyper bien comme il faut. Et comme l'an dernier, celle-ci est entièrement gratuite et aura lieu du 26 au 28 octobre en ligne. Comme d'hab, Adobe vous a imaginé une conférence sur mesure qui transcende les barrières. Pendant 3 jours, accédez à des centaines de sessions animées par des intervenants du monde entier et à des dizaines d'heures de formation et de conférences avec les meilleurs créatifs de l'industrie. Et croyez-moi, du beau monde, il va y en avoir. L'actrice Tilda Swinton, le youtubeur Casey Neistat, le graphiste Aaron Draplin, l'illustrateur Kyle Webster, la podcasteuse Pauline Legnaud et plus de 400 autres vous attendent, juste pour vos beaux yeux, en streaming depuis votre canapé ou votre bureau. Sans oublier les ateliers pour découvrir les nouveautés du Creative Cloud, les projets collaboratifs, les portfolio reviews, les offres promotionnelles, j'en passe et des meilleurs. C'est gratuit, alors inscrivez-vous sur www.max.adobe.com ou retrouvez le lien dans les notes de cet épisode et rendez-vous les 26, 27 et 28 octobre en ligne pour le Adobe Max 2021. Et avant de vous présenter mon invité du jour, Lisa Mandel, hein, pour ceux qui ne lisent pas les titres, j'ai envie de remercier tous ceux et celles qui sont venus à l'apéro pique-nique Sens Créatif fin août. Vous étiez presque 70 à vous être déplacés afin de discuter créativité, illustration, graphisme, freelancing, podcast, j'en passe et des meilleurs, le tout autour d'une bonne petite binouze et des chips. Merci à vous tous qui êtes venus et qui avez rendu ce moment mémorable. Spécial dédicace aux membres du Patate Club qui sont venus en force. Merci à mes anciens invités qui ont fait le déplacement pour l'événement. Et merci à Elodie Winter pour les superbes photos. Vous pouvez visionner une partie des photos sur le compte Instagram du podcast ou retrouver l'intégralité en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. On remet ça l'année prochaine, mais oui, on remet ça l'année prochaine, et tous les mois même si vous le voulez. Mais pour ça, je vous invite à rejoindre le Patate Club sur Patreon, on vous en reparle en fin d'épisode, stay tuned. Et vous savez quoi? Cette année, je suis parti en vacances à Marseille. Et bon sang de bonsoir, mais qu'est-ce que j'ai aimé cette ville. L'énergie du truc est sidérante. Sans oublier qu'il y fait tout le temps beau, donc on ne va pas bouder son plaisir. Et une fois sur place, j'en ai profité pour aller à la rencontre de l'incontournable éditrice et autrice de BD, Lisa Mandel. Découverte l'an dernier avec son incroyable pavé, une année exemplaire, Lisa a immédiatement attiré mon attention. Bah oui, vous imaginez, pendant 365 jours, de juin 2019 à juin 2020, Lisa s'est donné comme défi de publier une page quotidienne sur les réseaux sociaux afin de tordre le cou à ses addictions. L'idée, c'était vraiment de « deal with her own shit », mais en public. Mais après des attaques de panique, une révolution libanaise, un séjour au Niger et l'apparition du Covid, son année a pris un tour complètement imprévu. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur la quatrième de couve. Alors rien que ça, c'était suffisant pour attiser ma curiosité. Mais non contente de s'arrêter là, dans la foulée, je découvre également que Lisa a créé les éditions Exemplaires, une maison d'édition alternative qui remet l'artiste au centre de sa production en lui proposant plus d'autonomie et un meilleur pourcentage sur les revenus générés par ses livres. Et ce notamment grâce à un modèle économique essentiellement basé sur le financement participatif. Bref, c'est de l'auto-édition puissance 10 000, en mode « Power to the people ». Et si tout cela ne suffisait pas, je découvre que la prochaine BD de Lisa s'intitulera « Se rétablir ». Un recueil de témoignages de personnes concernées par la maladie psychique qui ont réussi à se rétablir grâce à des structures alternatives et innovantes. Vous pouvez d'ailleurs commencer à lire cette BD sur la page Instagram de Lisa. Alors, entre la BD, le défi quotidien, les addictions, le financement participatif, la maison d'édition alternative, les réseaux sociaux et la santé mentale, j'ai grave eu envie de me bouger le cul, histoire d'en savoir plus. Alors, sans plus attendre, je vous laisse découvrir ma discussion avec Lisa Mandel. Bonne écoute.
Bah
du coup, c'est parti. Tu vas? Ouais. Est-ce que tu pourrais du coup, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, te présenter brièvement et puis me dire ce qui te motive à sortir du lit le matin?
Je suis Lisa Mandel, je suis autrice de bande dessinée et fraîchement éditrice.
Yes.
J'étais aussi directrice de collection pendant plusieurs années avec la sociologue Yasmine Boaga aux éditions Casterman, puisqu'on avait monté une collection de bande dessinée sociologique. Mm-hmm. Qu'est-ce qui me fait lever le matin? Pas grand-chose, c'est-à-dire que je traîne un peu moi le matin au réveil, j'en profite. Ce qui me fait lever le matin, c'est vraiment mon travail, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire toutes les choses que j'ai à faire, que j'ai envie de faire. C'est aussi l'atelier dans lequel je suis et dont j'apprécie énormément la compagnie des gens qui en font partie. Ouais, c'est ça, c'est mes projets, quoi. Vraiment, je pense que c'est ce qui me fait lever le matin, c'est mes projets.
Parce que ça fait une vingtaine d'années que tu bosses, hein.
Ouais, le temps passe vite. J'adore le dire parce que je me dis, ouais, 20 ans de carrière. c'est 20 ans, on va dire, c'est 18 ans édité. Enfin, ça fait 18 ans que j'ai édité mon premier livre.
Ouais.
Mais en fait, j'ai plus de 20 ans de carrière parce que j'ai à peu près 20 ans, quoi. Parce que ça faisait 2 ans que je travaillais déjà pour la presse et que je faisais déjà des strips dans des magazines.
Ah, d'accord.
Mais mon premier livre édité, c'est 2003, c'est Nini Patalo.
Ouais.
Donc, on va dire que officiellement, ma carrière démarre, Il y a 18 ans.
Ouais, d'autrice de BD,
mais je faisais déjà de la BD avant, mais plus voilà que j'avais pas sorti de livre, mais ouais, j'aime bien dire 20 ans de carrière parce que en plus ça assoit le personnage.
Ah ouais,
écoutez, j'ai 20 ans de carrière. Ouais. Non mais voilà,
tu peux pas tester là, c'est bon, j'ai 20 ans.
Ouais, ouais, puis même ça fait, moi je suis contente d'avoir fait cette carrière, d'avoir mené pendant 20 ans et du coup, ouais, ça fait un moment que je suis dans le milieu de la BD, ouais.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de basculer de justement ce travail pour la presse vers la bande dessinée?
Alors la presse, c'est que j'étais encore étudiante, je faisais de la presse parce que je pouvais pas faire autre chose.
Oui, enfin, oui.
C'était le début, je commençais à peine. On m'a donné ma chance, notamment les Milan Presse m'a donné ma chance. Je faisais beaucoup de dessins de presse pour enfants en fait dans les Clés de l'actualité junior,
ah, oui.
Qui est un journal d'information pour les enfants dont je ne sais pas s'il existe encore.
Je pense pas.
Mais voilà, Julie, enfin toutes des magazines qui existaient à l'époque chez Milan Presse. Moi, j'ai commencé comme ça. Après, je suis rentrée à Tcho parce que j'étais dans la même classe que Boulet, qui travaillait déjà à Tcho,
oui.
Et qui m'a dit mais propose des choses parce qu'il avait bien vu que je faisais des trucs humoristiques et que ça pouvait coller. Et donc ça, c'était quand j'étais encore étudiante. Et du coup, la BD est venue. Enfin, en fait, moi, j'ai toujours voulu faire de la BD, donc j'ai fait de la presse parce que c'était un intermédiaire pour moi entre l'illustration et la BD, parce que ce que je faisais, ça a jamais été de l'illustration, c'était vraiment du dessin de presse ou des petits strips. Enfin, il y avait toujours des bulles. À partir du moment où il y a des bulles, même s'il y a qu'une case, pour moi, c'est de la BD, c'est pas de l'illustration. J'ai toujours d'ailleurs été assez mauvaise en illustration, hein, puisque j'étais aux Arts Déco à Strasbourg, mais en section illustration. Mais je brillais vraiment pas, quoi. Moi, mon truc, c'était la BD et l'illustration narrative, l'illustration jeunesse. C'était vraiment pas mon truc, quoi. Je galérais, ça me plaisait pas. Et moi, j'avais envie de raconter des histoires.
Ouais.
Et j'avais envie de faire de la narration séquentielle.
Il n'y avait pas de section BD aux Arts Déco de Strasbourg?
Il y avait de la BD en illustration. On avait notamment Joseph Bé qui animait un atelier de bande dessinée et qui était un très bon pédagogue. Il travaillait encore d'ailleurs aux Arts Déco parce qu'il était quand même assez jeune quand on l'a eu comme prof. Donc il y avait de la BD, mais c'était il y avait moins de BD qu'il y en a aujourd'hui. C'était plus axé illu jeunesse.
Ouais.
Et donc la BD, c'était quand même accessoire. La plupart du temps, on faisait de l'illustration. Mais moi, mon vrai but dans la vie, c'était de faire de la BD. Ça l'a toujours été.
Ouais.
Mais ça allait. J'étais quand même hyper contente d'être dans cette section. J'ai rencontré des gens incroyables. Ça a été vraiment une grosse émulation. Et puis, une des meilleures périodes de ma vie, ces études aux Arts Déco Strasbourg. Donc, c'est à refaire. Je le referai peut-être un peu différemment. Je profiterai plus de ce qu'offrait l'école à l'époque plutôt que d'aller boire de la bière et d'aller découvrir ma vie amoureuse, on va dire.
Mmh.
Voilà. Mais ouais, voilà.
Oui, et puis si j'ai bien compris, cette vocation, si on peut parler ça, la bande dessinée, c'était très jeune parce que c'était soit coiffeuse ou dessinatrice de BD. Hein. C'est le topo officiel, ça. Hein.
Oui, parce que c'était drôle. J'ai eu un moment d'interrogation à savoir si je voulais pas être coiffeuse pour chien quand j'avais 4 ans.
Oui, c'est ça, pour chien.
Ouais, mais j'avais 4 ans, mais ouais. En fait moi je veux faire de la BD depuis toujours, j'ai pas le souvenir d'avoir voulu faire autre chose.
Ouais.
Et en plus c'était pas une envie comme on dit une lubie, c'était vraiment mon but dans la vie, quoi, c'est-à-dire depuis que je peux tenir un crayon, je veux faire de la BD et toute ma vie et je m'a dirigé vers ça, c'est-à-dire j'étais tout droit, quoi. Vers mon but ultime que j'ai regardé en face de moi t'as un soleil couchant à l'horizon.
Et que tu as atteint.
Oui,
qui a bifurqué, qui a changé.
Ouais, j'y suis arrivée, mais finalement, j'ai eu quand même quelques crises existentielles dans ma vie où je me suis dit, mais est-ce que c'était vraiment ça que je voulais faire? Est-ce que je me suis pas juste dit que c'était ça? Puis du coup, je me suis laissé aucune autre option. Mais il s'avère que j'ai pas tellement d'autres finalement talents assez notables pour changer de carrière. Enfin, et en plus, c'est juste que effectivement, je pense qu'on peut parler de vocation dans la mesure où c'est même pas une question du fait que ça me plaise ou pas.
C'est-à-dire c'est plus fort que toi.
Je peux
c'est
pas faire
Sega,
autre chose.
C'est
ouais.
plus fort que toi.
Mais ça me plaît pas forcément. Il y a des fois où j'ai pas envie d'aller bosser. Il y a des fois où j'ai pas envie de dessiner. Mais je suis habitée par ce métier, c'est vrai. Et c'est même plus une question de plaisir, c'est une question de nécessité, quoi. Ouais. Et puis, avec le temps, ben, effectivement, j'ai développé des compétences dans ce domaine que j'ai pas développé dans d'autres domaines. Parce que au départ, ben, j'aimais aussi beaucoup le théâtre. J'aimais aussi beaucoup l'écriture, tout simplement. Mais j'ai tout mis dans la bande dessinée. Et du coup, ben, j'ai pas progressé dans les autres domaines parce que je les ai pas exploités. Donc aujourd'hui, ben, là où je suis vraiment pro, ouais, c'est la bande dessinée et ce qu'il y a autour, quoi.
Et tu t'es spécialisée là-dedans.
Voilà, mais c'est aussi parce que c'était, ça faisait vraiment partie intégrante de ma personnalité aussi.
Ouais, ouais, bien sûr. On pourra discuter de tout ça. Moi, j'ai une question très simple que j'aimerais te poser. Pourquoi être exemplaire?
Alors en fait, le nom, il vient de cette bande dessinée que j'ai faite pendant un an, qui s'appelle Une année exemplaire, où pendant un an, j'ai essayé de me débarrasser de toutes mes mauvaises habitudes et de toutes mes addictions en même temps. Et en fait, il s'est trouvé que pendant et je devais poster une BD par jour, une page par jour sur les réseaux sociaux. Il se trouve que pendant cette année-là, en fait, il y a eu le Covid et puis j'ai un peu raté quand même pas mal de défis, mais j'ai réussi deux défis, celui de m'auto-éditer parce que c'était aussi une envie que j'avais depuis très longtemps et celui de poster une page par jour ou presque puisque j'ai réussi à me faire épauler par des collègues, des consoeurs et des confrères de la BD parce qu'à un moment
invité exemplaire,
voilà,
c'est ça.
J'avais ouais. des invités exemplaires sur la fin parce que j'atteignais un peu les limites du burn-out parce qu'il fallait que je produise le samedi, le dimanche, le jour de Noël. Ouais, c'était j'avais jamais et puis moi j'avais jamais de page d'avance donc c'était vraiment tous les jours il fallait que j'y réfléchisse et donc il y a eu un moment où j'ai un peu pété les plombs et puis heureusement.
T'es hyper honnête dans la BD, tu le montres, tu caches rien.
À tout est dit.
J'aime bien tes pages aussi un peu entre guillemets flemmardes où c'est genre oui. bon c'est la même chose mais j'ai changé les bulles oui. ou comment tu essaies tout le temps de changer un petit peu la formule pour bon voilà je vous avais promis une page par jour je le fais quand même. Mais franchement, en ce moment, c'est galère et tout.
Bah, je me suis dit, quitte à raconter sa vie, autant être honnête. Et puis, de toute façon, c'est ça qui est marrant avec une page par jour, c'est qu'on n'a pas le temps de s'apitoyer sur la médiocrité de sa page, qu'il faut déjà penser à la suivante.
Oui, oui.
Et du coup, on avance. Et moi, j'aimais bien ce truc-là j'avais l'impression d'être sur un tapis roulant, que de toute façon, ça allait avancer. Je pouvais essayer d'aller à l'envers, c'était pas possible. Et du coup, bah, autant, et on n'a pas le temps, c'est ça qui est marrant, on n'a vraiment pas le temps de se retourner et de dire, oh là là, la honte, ou si on fait une page qui marche moins bien, parce que donc, elle était tout le temps, dans les réseaux sociaux. Donc je voyais bien quand une page avait du succès, quand une page n'en avait pas tellement, je voyais bien quand je me plantais. Et puis, mais on n'a pas le temps. Il faut continuer. C'est un peu la vie en fait.
Ouais.
Faire une page par jour, c'est un peu la vie. C'est-à-dire que voilà, la vie passe et puis on peut avoir des regrets. De toute façon, c'est passé.
Ouais.
Faut être déjà dans le projet suivant. Et je suis hyper contente de ce livre hein, qui est tout à fait loin d'être parfait, mais et qui est pas aussi exemplaire que j'aurais voulu, mais néanmoins, je suis contente de ce livre parce que je l'ai fait vraiment de A à Z et surtout j'ai réussi à m'auto-éditer, ce qui était quelque chose qui était pas évident et en plus j'aurais pu très bien le faire chez un gros éditeur comme je fais d'habitude. C'était pas un livre que j'ai auto-édité par défaut, loin de là. J'avais vraiment envie depuis le début de l'auto-éditer. C'était aussi un de mes objectifs.
D'où l'idée du crowdfunding en amont.
Donc j'ai fait un crowdfunding, un financement participatif chez Ulule pour financer le livre. Donc j'ai eu une certaine somme d'argent, j'ai eu 15 000 euros, ce qui m'a permis en fait de financer le livre, sachant qu'au bout de 6 mois, bah, j'avais plus d'argent et donc j'ai dû faire une prévente.
Ouais.
Et j'ai réussi, à la fin de mon défi, d'avoir à avoir à peu près 1 000 personnes qui avaient acheté le livre. Ça m'a permis de l'imprimer et de le distribuer. Et en fait, il a eu quand même un très bon accueil puisqu'il a été sélectionné au Festival
ouais.
d'Angoulême.
Ouais.
En plus, je voulais même pas l'envoyer au jury. Je me disais, ouais, j'ai aucune chance, un truc auto-édité, blablabla. Finalement, je l'ai fait. Donc, j'ai testé.
T'es les potes qui t'ont dit, vas-y, fais-le.
Ouais, j'ai des amis qui m'ont dit, mais vas-y, fais-le, lance-toi. Puis moi, je me dis, mais non, mais de toute façon, Ça sera jamais sélectionné, ça sert à rien, parce que c'est quand même un certain investissement de participer à Angoulême, parce qu'il faut envoyer beaucoup de livres, enfin c'était beaucoup d'investissement personnel, et puis je regrette pas de l'avoir fait. Après après j'ai eu beaucoup de presse. Et
C'est aussi le tour de force que t'as fait de sortir une BD par jour et de d'y être tenu.
Oui oui voilà, bah après j'avais eu de la presse et comme j'ai 20 ans de carrière, j'avais un réseau aussi de journalistes. En fait, j'ai fait ça à un moment où je pouvais aussi me le permettre parce que j'avais un réseau de lecteurs assez solide et un réseau de presse assez solide que je savais qui m'accompagnerait. Alors peut-être pas tous, mais je savais qu'il y avait quelques journalistes avec qui j'entretiens de bons rapports, qui suivent mon travail, je sais qu'ils l'apprécient. Donc je suis pas partie comme ça. Et puis j'ai monté une équipe en amont pour m'aider à auto-éditer. Donc je l'ai pas auto-édité seule, ce livre, hein,
oui.
Parce que c'est effectivement beaucoup trop de travail. Et ça m'a du coup... donner envie de créer une structure avec un concept similaire.
Oui, les éditions exemplaires.
Voilà, les éditions exemplaires.
Ouais. Mais au niveau de la BD, enfin une année exemplaire, entre qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce projet pharaonique? Parce que tu l'as fait, mais à quel moment tu t'es dit, tiens, vas-y, je vais faire ça, quoi?
Alors, je pense que c'était un peu la détresse. C'est-à-dire que, en fait, il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que je l'ai fait. Mais la première envie, c'était, je me sentais pas bien dans mon corps. Je sais que moi, je suis prise avec pas mal d'addictions qui paraissent comme ça pas graves, mais qui sont des choses qui me pourrissent la vie au quotidien. Notamment, j'ai des troubles du comportement alimentaire, j'ai des, mais après voilà, beaucoup de gens le font, donc ça paraît pas incroyable, mais je veux dire, je peux passer 12 heures d'affilée à regarder des séries. Je sais que quand ça va pas, ou quand j'ai un souci, ou quand je suis angoissée, je vais avoir tendance à être un peu dans le binge, dans la boulimie, mais ça peut être la boulimie de travail, ça peut être la boulimie de séries, ça peut être la boulimie alimentaire, et je sais que j'en avais marre et que j'arrivais pas à changer ça, et du coup je me suis dit, je vais rendre mon défi public pour m'obliger à le faire. Donc ça c'était la première motivation. Et aussi parce que je voulais m'auto-éditer, je cherchais un sujet. Et donc, quelque part, il y avait une réelle envie de faire du développement personnel.
Ouais.
Et d'un autre côté, il y avait aussi une envie de trouver un projet prétexte pour pouvoir m'auto-éditer.
Ouais.
Donc, c'est ces deux envies-là, en fait, qui se sont mélangées pour créer ce projet. Mais ce projet m'a dépassé, c'est-à-dire qu'il a dépassé ma petite personne parce que la vie avec un grand V s'en est mêlée et que finalement, cette espèce de quête hyper auto-centrée, elle s'est vite transformée en une chronique de la vie quotidienne, notamment du Covid, parce que le Covid s'est invité dans l'histoire. Donc, ça a complètement aussi ouvert la BD sur autre chose. Je me suis aussi retrouvée au Liban pendant la Révolution.
C'est juste.
À Beyrouth, je me suis retrouvée à Niamey, dans un centre de réfugiés. En fait, la vie, ma vie a pris le pas. Et du coup, ce projet qui était au départ vraiment très tourné sur moi-même, en fait, je me suis rendu compte aussi que c'était un peu vain de... J'aurais pas pu tenir un an en faisant que parler de mon poids et de ma perte de kilos. De toute façon, ça a vite foiré, ce truc-là. mais par contre, moi, j'ai toujours tenu des journaux intimes depuis que j'ai 9 ans.
Ah, d'accord.
Enfin, j'ai arrêté quand j'ai commencé à éditer mes premières BD.
Ah, ouais.
Mais j'ai tenu un journal intime de mes 9 ans à mes 24 ans sans discontinuer. C'est-à-dire, j'ai des journaux où j'ai 10 ans et je raconte, oui, j'ai un journal. Donc, en fait, je me suis rendu compte que tenir un journal, c'était quelque chose qui était en moi aussi.
Mm.
Et donc, bon, là, quand il y a eu dans les années 2000 l'avènement des blogs BD, évidemment, j'ai tenu un blog BD, mais plus parce que je partais en voyage en Argentine et que je voulais une trace et que j'avais tendance à pas dessiner en voyage et du coup à avoir aucun souvenir et surtout à pas tenir mes parents informés, ma famille informée de ce que je faisais. Donc je me suis dit, ah, je vais tenir un blog, comme ça ils
peuvent tenir au courant.
Donc c'est un blog qui a duré pas tellement longtemps, qui a duré 2-3 ans. Et ensuite, je suis partie dans la... J'ai commencé à faire une BD sur... parce que moi, je suis arrivée de la jeunesse, hein. Mais après, je me suis mise à faire une BD sur un témoignage sur mes parents, donc sur leur carrière en psychiatrie, qui s'appelle HP.
Ouais, oui.
Et là, en fait, c'était plus rien d'autre que de la socio qui disait pas son nom, mais moi, j'avais pas fait d'études de socio, j'avais pas fait... j'avais fait un bac à appliquer, donc un bac technique.
Oui.
Donc j'avais même pas eu... j'avais pas eu de socio, quoi. Je savais pas ce que c'était. Et en fait, j'ai rencontré un groupe de sociologues avec qui on a créé une collection de BD sociologiques. Donc pendant plusieurs années, j'ai fait ça. Et donc je me suis orientée de plus en plus vers la BD documentaire, puisque je suis partie avec Yasmine Boigat, donc la co-créatrice de la collection. On est partie dans la jungle de Calais pendant 6 mois. On a suivi les 6 derniers mois de la jungle de Calais. Donc ça fait aussi une grosse BD documentaire. J'ai suivi aussi les élections avec une sociologue, Julie Pagis,
Les présidentielles.
Présidentielles, ouais, qui a l'air beaucoup moins sérieux que ça ne l'est. En fait, on a suivi toutes les élections dans une classe, dans deux classes en Seine-Saint-Denis. Et puis, partant de là, bah, je devais un livre à Lewis Trondheim pour Shampoing depuis des années, qui était la suite de mon blog, qui s'appelait Libre comme un poney sauvage. Et je l'avais jamais fait, et je leur devais vraiment ce bouquin, donc j'en ai profité, que j'étais au Liban pour 4 mois. J'ai fait une chronique, sur ma vie, à Beyrouth.
Tout se tient, là. On voit le fil, là.
Oui, il y a un fil. Et après, donc, j'ai raconté, une année exemplaire. Et là, je travaille, par ailleurs, à la suite d'HP, j'ai été contactée, il y a plusieurs années par un psychiatre qui s'appelle Vincent Girard et qui est un des fervents défenseurs, un des pionniers du rétablissement, du concept de rétablissement à Marseille. Et du coup, qui m'a proposé de faire une BD sur le rétablissement. Et ça, c'était déjà il y a plusieurs années. Et en fait, la BD n'a pas pu se faire parce que j'ai suivi un lieu qui s'appelle le lieu de répit à Marseille et qui était à l'époque une alternative à l'hospitalisation pour les personnes en crise psychique. Et c'était un lieu transitionnel pour les personnes, en fait, sans domicile. Mmh. Le temps qu'elles retrouvent un appartement, elles étaient censées rester là dans un système de fonctionnement sociocratique. C'est-à-dire, c'est pas de la démocratie, c'est un fonctionnement où chacun peut s'exprimer, enfin il y a plein de règles, et en fait ça a été très compliqué. Le staff a eu beaucoup de mal à gérer le lieu, les habitants du lieu ne voulaient plus partir, ça a fait une espèce de catastrophe et tout le monde a été finalement viré. Enfin, toute l'équipe a été remplacée et moi je suivais ce lieu, donc j'ai dû arrêter parce que finalement le lieu tel que moi je le suivais ne fonctionnait pas l'état. Mmh. Et je pouvais pas faire une BD sur un lieu qui marche
s'arrête.
Pas.
Ouais.
Surtout que le lieu ne s'est pas arrêté, il a juste changé de fonctionnement, et je pense qu'aujourd'hui ça marche beaucoup mieux, ils ont un peu modifié les choses, mais moi je pouvais pas tirer une balle dans le pied du rétablissement en montrant l'exemple d'un lieu qui crée et qui en l'état n'a pas réussi à tenir ses promesses, parce que en fait à Marseille il y a plein d'autres lieux qui fonctionnent. Mmh. Et le rétablissement, moi j'y crois, et j'ai vu des gens de mes yeux, j'ai interviewé des gens qui ont réussi à se rétablir ou qui sont en train de se rétablir tout en étant concerné par la maladie, et qui apprend à vivre avec. Et donc, j'étais obligée de réfléchir, donc j'ai perdu beaucoup de temps. Et il y a aussi des gens que j'ai interviewés qui sont retirés du projet parce qu'ils étaient en désaccord avec le lieu. Enfin, ça a fait toute une réaction en chaîne.
Ouais.
Et là, récemment, j'ai repris le projet, mais en partant des personnes. Donc, j'ai interviewé des personnes qui sont atteintes de différentes pathologies, mais qui arrivent à mener une vie à peu près normale avec leurs troubles.
Ouais, je suis en plein suspense sur Instagram avec TDAH là.
Le TDAH, c'est c'est pas le TDAH là qu'on faisait, c'est l'entendeur de voix. Ta personne.
Ah pardon, tu as tout à fait raison. Oui, c'est l'entendeur de voix.
Le TDAH, la personne qui a des TDAH, on voit qu'elle arrive à trouver une solution. L'histoire va beaucoup plus loin que ça, mais moi, comme j'étais en crowdfunding aussi.
Oui.
J'ai préféré donner des extraits de parcours de vie plutôt que d'aller jusqu'au bout de l'histoire, parce qu'au bout d'un moment ça devient un peu plus technique, un peu plus didactique. Oui. Ces personnes elles rencontrent des lieux, elles font des formations, et du coup pour le crowdfunding, je raconte surtout le début de comment elles découvrent en fait leur pathologie, comment elles l'acceptent et toutes les épreuves qu'elles doivent traverser pour aller mieux en fait. C'est un peu l'idée, c'est raconter l'itinéraire de gens qui s'en sortent, parce qu'on a beaucoup l'itinéraire de gens qui s'en sortent pas.
Oui.
On entend beaucoup de témoignages sur l'hôpital psychiatrique, et moi j'avais envie de parler des gens qui s'en sortent. Alors je vais peut-être me tromper, mais en réalité 70% des gens qui sont atteints de trouble psy arrivent à avoir une vie normale, et oui. C'est pas l'impression qu'on a de l'extérieur. On a l'impression que personne s'en sort.
Se rétablir, ce n'est pas guérir, c'est vivre avec.
Voilà, c'est ça. Se rétablir, c'est pas guérir, c'est vivre avec. Et en fait, il y a plein de gens qui vivent avec des troubles psy et qui arrivent à mener des vies tout à fait décentes, même si c'est pas toujours évident. Bon, la vie, c'est pas toujours facile de toute façon, même quand on n'a pas ce genre de troubles. Et moi, j'avais envie de parler de ces gens-là. Alors, je suis pas en train de dire que c'est tout le monde qui est concerné par leur rétablissement, mais il y a quand même beaucoup de gens qui, sans même savoir que c'est du rétablissement, sont oui. là-dedans, quoi. Et moi, c'est de ces gens-là dont j'ai envie de parler. Je veux aussi sortir du rapport soigné-soignant, patient-soignant, ce rapport, en fait, pour moi, qui est un rapport hiérarchique, qui a pas lieu d'être dans l'enquête que je mène, et qu'en fait, beaucoup de gens, quand je leur dis sur quoi je travaille, ils disent, ah, mais justement, je connais quelqu'un qui travaille avec des patients. Je suis là, je dis, non, mais là, faut arrêter de faire de la personne qui a des troubles psy une éternelle malade.
Ouais.
Faut arrêter de faire de la personne là un éternel patient.
Mmh.
Et c'est un peu ce qu'on fait. Alors qu'une personne qui a une maladie chronique n'est pas une personne perpétuellement en crise, et perpétuellement mal et perpétuellement hospitalisée. C'est une personne qui voilà, une maladie chronique. Moi, j'en ai une. Il y a plein de gens qui en ont une et qui vivent avec. Et ben, les troubles psy, ça fait partie. C'est un handicap. Et c'est un handicap la plupart du temps invisible. Et c'est aussi une maladie intermittente, c'est-à-dire qu'il peut laisser de grandes plages de normalité. Et donc voilà, moi j'aime bien l'idée, et je pense que dans l'esprit, dans l'inconscient collectif, la personne qui a des troubles psy, c'est un éternel patient qui doit toujours être dans un lieu où il y a des éternels soignants. Et moi je refuse en fait cette espèce de terminologie, même si elle est réelle pour certaines personnes. Hein. Je dis pas qu'il y a pas des gens qui sont chroniques, qu'il y a pas des personnes qui arrivent pas à s'en sortir et qui du coup passent leur temps en hospitalisation, mais c'est pas la réalité pour tout le monde en fait.
Ouais.
Et loin de là, et c'est pas la majorité des gens.
Et tu dirais que c'est parce que tu l'as mentionné là une minute, c'est parce que t'es aussi toi-même concerné que tu l'as à cœur, ou est-ce que c'est aussi avec tes parents qui travaillaient là-dedans que t'as été sensibilisé ou
Alors moi, il y a plein de, c'est multifactoriel. De une, c'est vrai que le fait d'avoir fait la bande dessinée, d'avoir grandi avec des parents, avec une mère et un beau-père qui travaillaient en hôpital psychiatrique, eh bien, ça m'a sensibilisé à la question de la maladie psychique.
Oui.
Mais dans ma propre famille, beaucoup de personnes sont concernées aussi.
D'accord.
Et du coup, moi, j'ai toujours vécu avec des gens dans ma famille qui allaient mal.
Ouais.
Après, dont mes parents m'ont beaucoup protégée. C'est-à-dire que j'ai notamment la sœur jumelle de mon père qui est schizophrène.
Ah oui, okay.
Et que j'ai pas vue depuis qu'elle a été déclarée quand j'étais petite. Je l'ai vue peut-être 5 ou 10 fois dans ma vie. Donc mon père m'a beaucoup préservé de ça. J'avais aussi une grand-mère, la mère de mon père, qui a fait beaucoup de passages en maison de repos, en hôpital psy, mais à l'époque on disait pas ça comme ça, et je voyais bien qu'elle allait extrêmement mal, mais je savais pas vraiment ce qu'elle avait, à part qu'elle était en dépression, mais c'était plus que de la dépression. Et puis voilà, ma mère a eu un frère qui a la vingtaine, a fait des bouffées délirantes. J'ai un grand-père qui...
Ah oui, non, mais oui.
Voilà, ma mère a aussi son père a aussi... Son grand-père s'est suicidé, son père a fait se suicider. Et il était aussi un peu comme ça, bipolaire, mais qui n'était pas diagnostiqué. Et bref, j'ai pas, c'est pas un secret, hein. Mais disons que je pense que du coup, je me suis sentie concernée. Et en plus, moi, j'ai déclenché une épilepsie.
Attends, il y a ton chat qui m'a mort, voilà. Et là, mon grand.
Ben là, faut l'enlever, hein. Faut la pousser. Tu peux juste la pousser gentiment.
Ouais. Ouh.
Non, t'inquiète pas, elle griffe pas.
Non, mais je vais pas lui faire mal, en fait.
Ah non, mais tu la pousses, hein, okay. Ça va aller. Hein. C'est que là, on lui prend son fauteuil, là.
Mais oui, ma pauvre.
Bah alors, un chou. Oui, elle a... Alors, ouais, elle a envie de participer. C'est...
Mais oui.
Ouais, donc oui, moi, j'ai déclenché une épilepsie à 30 ans. Et en fait, ça m'a aussi fait réaliser ce que c'est de vivre avec une pathologie chronique, sachant que je prends des médicaments matin et soir, et que ce sont...
Depuis que t'as 30 ans.
Ouais, depuis que j'ai 30 ans, ah ouais. Et que c'est les mêmes médicaments, c'est le même type de molécules qu'on donne aux personnes bipolaires. Donc,
d'accord.
Je vois ce que c'est de prendre un médicament, c'est des stabilisateurs d'humeur, mais parce que si ça ralentit l'électricité dans le cerveau, donc ça permet d'éviter l'encombrement qui provoque des crises. Mais du coup, ça a des effets secondaires, et donc voilà, je sais exactement ce que c'est d'avoir des médocs à vie et d'avoir des effets secondaires et d'être obligé de les prendre, parce que j'ai essayé d'arrêter, et en fait, mes crises reprenaient.
Et crises d'épilepsie que tu partages dans une année.
Oui, oui, j'en parle dans une année.
Et crises d'angoisse aussi.
Oui, mais alors bon, ça c'était encore une autre chose, parce que c'était lié en fait à un arrêt trop brutal de CBD que je prenais en complément de mes médicaments et que je prenais même un peu à la place de mes médicaments et qui semblait une super bonne idée. Sauf qu'en fait, ça a fini par faire moins effet. Donc, j'ai arrêté d'un coup et en fait, je me suis rendu compte rétrospectivement que c'était ça qui m'avait créé des crises de panique. En fait, c'était l'arrêt brutal du CBD, donc, et du cannabiol, qui est du cannabis sans la THC. Donc, on n'a pas le sentiment d'euphorie que moi, je déteste, hein, personnellement. Donc, je ne voulais surtout pas avoir. Mais par contre, ça crée une addiction qui dit pas son nom. Moi, j'ai pas eu de manque en arrêtant. Simplement, je me suis mise à me sentir extrêmement mal. Donc, j'ai dû doubler mon traitement antiépileptique, effectivement. Et j'ai eu une période... Et je pense que c'est aussi lié au fait que j'ai arrêté toutes mes addictions en même temps.
Bah
je
oui,
pense
c'est que c'est une pas addiction non plus, pour une addiction, quoi.
Oui, c'est pas non plus que l'arrêt de cette molécule que je prenais depuis un an. C'est aussi le fait de plus avoir d'endroit pour décompresser.
Ouais.
Et les addictions, en fait, en tout cas en ce qui me concerne, c'est rien de plus que des anxiolytiques ou des antidépresseurs entre guillemets naturels, parce que bon, regarder des séries, c'est pas extrêmement naturel, mais en tout cas, c'est une manière de me détendre que j'arrive pas à trouver naturellement. Donc ça aussi, ça a été une prise de conscience pendant l'année où j'ai fait mon année exemplaire. Donc on dirait comme ça que c'est sinistre, mais c'est quand même assez rigolo.
Ah oui, c'est très rigolo.
Parce que là,
c'est hyper touchant aussi.
Ouais, merci de le dire, mais j'ai essayé d'être hyper honnête. En même temps, il y a quand même un truc d'autodérision qui est un peu ma façon de raconter les choses.
Mais c'est ce qui fait que ça marche bien, c'est qu'on est dans quelque chose de... je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver aussi dans ce que tu partages. Le fait que c'est pas facile, mais tu amènes une autodérision et un sérieux en même temps qui font que... que la sauce prend, quoi, tout simplement.
C'est un peu la vie, c'est un peu.
Oui, c'est ça, voilà.
C'est... blague. Mais c'est vrai que c'est sûr que j'avais pas envie d'être misérabiliste, mais ce chat t'attaque. Il y a un chat derrière.
Hé, tu t'occupes trop de Lisa Mandel, je veux qu'elle soit avec moi.
Oui, c'est ça fait un peu genre.
Tu me la partages juste une petite heure, mon grand. Ou ma grande.
Madame la jalouse.
Ouais, c'est ça. c'est d'une madame.
Elle est là.
T'inquiète pas, tu peux la caresser, genre, voilà, elle mordit.
Hein, elle fait sa tigresse.
Ouais, elle est pas du tout dangereuse, celle-ci. L'autre, je m'en méfierais plus. Bon, bref, on va pas, de toute façon, on va pas forcément parler des chats. Mais, donc, la BD là, c'était vraiment, quelque part, ça a été assez thérapeutique, mais comme l'est toujours la bande dessinée, moi, je pense que j'ai la chance d'avoir un moyen d'expression qui fait que ça a pu aussi m'aider à canaliser et à catalyser beaucoup de frayeurs et d'angoisses par la BD. Je pense que si j'avais pas fait de BD, j'aurais pu moi aussi être du côté des personnes qui ont des troubles psy, vraiment. Et je dis pas ça pour faire genre, j'en suis persuadée, parce que c'est une manière aussi de sublimer.
C'est cathartique. Ou cathartique, je peux comprendre.
Voilà. Et puis c'est une manière de sublimer la vie. Et puis
c'est quelque chose qui est très cher à mon cœur. Et puis dans les valeurs un peu du podcast, c'est de créer pour transcender. C'est de. On a tous des histoires, on a tous nos bagages, nos trucs bien, nos trucs moins bien, et que la créativité, ça permet en fait de les sortir du système et aussi de les partager à d'autres et de créer une connexion les uns avec les autres. Et.
Et puis je pense que j'étais un enfant qui avait pas mal d'angoisse et énormément d'imagination. Je pense que si j'avais pas pu la sortir, elle m'aurait quelque part un peu dévorée. Je pense que c'est ce qui est un peu arrivé à plusieurs personnes de ma famille. En plus, je pense que je fais partie des gens qui pensent que c'est aussi la maladie psychique. C'est pas que l'éducation et l'environnement, c'est aussi neurologique. Et en plus, je pense il y a pas mal de personnes atteintes de troubles épileptiques. Souvent dans les familles d'épileptiques, il y a aussi des personnes qui ont des troubles psy, et il y a aussi des personnes migraineuses. Donc je pense qu'à un moment donné, on a une fragilité du cerveau qui peut se manifester différemment selon les gens, mais il y a clairement une corrélation entre les neurones et ce qu'on appelle la folie. Et moi, je suis persuadée qu'il y a des deux, quoi. Il n'y a pas que évidemment une éducation peut rendre fou, mais néanmoins, dans la même fratrie, tout le monde ne va pas devenir fou. Donc je pense que moi, j'ai fait partie des gens qui ont eu moi j'ai été épileptique, quoi, et puis migraineuse, et j'aurais pu être étiquetée schizophrène, j'aurais pu être bipolaire. Enfin, je pense que je me sens très proche quand je discute avec des gens qui sont atteints de bipolarité, par exemple. Je me sens extrêmement proche d'eux. Pourtant, on n'a pas la même chose. Mais moi aussi, je sais ce que c'est de devoir pas manquer de sommeil, attention à l'hygiène de vie. Je sais ce que c'est qu'avoir une crise et mettre un mois à s'en remettre, parce que moi, je sais que une personne bipolaire, quand elle est up, c'est-à-dire quand elle est en phase maniaque et qu'elle redescend, elle fait des énormes dépressions. Moi, je sais que après mes crises d'épilepsie, je suis aussi dans un moment de dépression. Après, c'est moins handicapant au quotidien d'être épileptique, enfin, parce que je suis stabilisée. Mais et puis c'est, même si c'est aussi un peu stigmatisé, ça l'est quand même 50 milliards de fois moins que d'être bipolaire. Après, moi, je sais pas comment dire. Il y a sur plein de points, je me sens proche des personnes qui ont des troubles psy, parce que ça fait partie du, pour moi ça fait partie de la même, c'est des ce qu'on appelle les neurodivergences, quoi. Et pour le coup, je me sens du coup concernée, et parce que dans ma famille il y a des personnes concernées, et parce que mes parents y travaillaient, et parce que moi-même je souffre d'une maladie chronique qui atteint le cerveau et qui m'empêche de faire plein de choses, mais aussi m'a obligée à me fortifier sur d'autres. Et donc voilà, je me sentais à même Et je sentais que j'avais assez de bienveillance en moi pour mener ce projet aussi, parce que s'il y a bien une chose que j'avais pas envie de faire, c'était du sensationnalisme.
Oui.
Et même si les histoires sont sensationnelles, enfin les parcours sont incroyables, parce que la folie, ça a quand même quelque chose qui est toujours un peu raccord à la magie. Mmh. C'est-à-dire qu'on a beau savoir que c'est pas de la magie, il y a quelque chose de tellement surréaliste dans la folie. Et d'ailleurs, dans plein de pays, c'est considéré comme sacré, hein, c'est considéré comme de la magie. Que en fait il y a un côté fascinant en fait là-dedans, mais moi je voulais surtout
démystifier un peu le truc.
Ouais, ou en tout cas se rappeler que derrière une maladie il y a des personnes et que les personnes ne sont pas leur maladie. Et ça, ouais, les personnes qui ont des troubles psy, c'est plusieurs fois me l'ont dit. C'est-à-dire on a l'impression, c'est comme les gens qui ont le cancer qui disent j'ai l'impression qu'on voit que mon cancer, que j'existe plus, je suis juste
c'est
et c'est aussi faire la différence entre les personnes et leur maladie, parce qu'il y a aussi tout un discours psy qui pendant des années et des années et des années a dit que les personnes par exemple schizophrènes n'avaient pas de personnalité, enfin qu'elles avaient une personnalité de schizophrène, puis c'était ça leur personnalité, et qu'elles étaient finalement creuses et qu'elles s'adaptaient à leur environnement, mais qu'elles, elles n'avaient pas vraiment dit de moi. Et moi, j'ai rencontré des gens quand on est des voix et enfin qui étaient outrés, qui avaient été vraiment hyper choqués par ce discours-là, en disant mais moi, je suis une personne avec des goûts, avec des choses que j'aime, des choses que j'aime pas, et qu'on vient de me dire qu'en fait, j'ai pas de personnalité, que je suis juste schizophrène. C'était hyper violent.
De ouf.
Alors qu'en fait, en plus, moi, la personne dont je parle, elle a commencé à entendre des voix à la fin de la vingtaine, elle aussi. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on peut vraiment poser la question de est-ce que c'est le fait d'entendre des voix qui rend fou, ou est-ce que c'est le fait d'être fou qui fait qu'on entend des voix. Et non, mais c'est une vraie question.
Oui.
Parce que du coup, toutes les théories qui voudraient que la personne qui entend des voix, donc schizophrène, en fait, elle a une personnalité schizophrène, tout ça partirait complètement à l'eau, quoi. Tout ça tomberait à l'eau, parce que on se dirait, mais oui, effectivement, moi, si demain, ou si toi, demain, t'entends des voix, ça va te rendre fou.
Ah, c'est sûr.
Donc, ça a poulé l'œuf, quoi. Et je trouve que c'est intéressant, parce qu'en plus, la biologie, les neurosciences réalisent de plus en plus qu'il y a des problèmes d'entente de voix qui peuvent être neurologiques. Mmh. C'est-à-dire, quand les neurones se raccordent mal entre eux, quand, par exemple, la personne, au lieu de, c'est censé être sa pensée, elle l'entend comme si c'était de l'audition, c'est aussi, ça peut être aussi un problème neurologique. Oui. Donc,
moi, j'entends pas des voix, mais je sais que par le passé, j'ai pu avoir une tendance un peu obsessionnelle avec des pensées intrusives. Mmh. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce que je pense ça?
Ouais.
C'est genre, j'en veux pas. Et tu le combats. Et en fait, au plus tu le combats, au plus ça s'accentue. Mmh. Et ben, j'ai eu des moments comme ça où j'étais vraiment en boucle. Ça va beaucoup mieux maintenant, mais c'est aussi pour ça que le sujet de la santé mentale m'interpelle, parce que je sais ce que c'est que... Enfin voilà, je peux avoir une tendance obsessionnelle, et c'est... Ben, ça rend malheureux. Alors moi, c'est pas au niveau de ce que... Ouais, voilà.
Mais ce qui est marrant, c'est que moi-même... je pensais pas l'être, mais je peux être aussi très obsessionnelle, mais sur des, mais du coup c'est vachement dans le travail. Mmh. C'est-à-dire que j'arrive à, c'est comme ça que je pense qu'il y a des choses que j'ai, projets que j'ai montés parce que je peux être obsessionnelle. C'est-à-dire je me couche le soir, j'y pense, je me réveille dans la nuit, j'y pense, je me réveille le matin, j'y pense, et c'est une espèce de boucle quand j'ai monté les éditions exemplaires, ça s'est vraiment passé comme ça. C'est-à-dire que c'est devenu une obsession.
Ouais, vas-y, raconte-nous.
Ben donc ça faisait longtemps que je voulais monter une maison d'édition, ça faisait longtemps que je me disais on devrait tous se regrouper, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, et alors je savais pas trop comment, parce que je me disais mais avec tous les followers qu'on génère, c'est trop bizarre qu'on n'en récolte jamais les fruits, parce que finalement après on fait éditer nos livres qui sont vendus en librairie, souvent ils sont pas forcément vendus aussi bien que le nombre de followers qu'on a sur les réseaux sociaux, donc pourquoi on touche que 8 à 10% de droits d'auteur alors que toute la chaîne du livre elle touche plus, pourquoi est-ce qu'on nous dit que c'est impossible de changer ça, pourquoi on devient de plus en plus pauvre, enfin pourquoi
oui.
Et pourquoi ne pas penser à un autre système? Et ça fait plusieurs années que le crowdfunding a quand même le vent en poupe, puisque plusieurs personnalités de la BD comme Laurel, Maliki et d'autres ont lancé des campagnes Ulule qui ont extrêmement bien marché et se sont fait quand même beaucoup plus d'argent que ce qu'ils auraient gagné chez un éditeur classique.
Ça pose question, ça.
Ça pose question. Après, il y a un énorme travail en amont de distribution, d'empaquetage, de suivi. Ouais, voilà. Alors, tout le monde, là, tu fais le signe de te tirer une balle. Moi, c'est ce qu'on m'a fait. Moi, quand j'ai dit que je voulais m'auto-éditer, j'aime bien redire toujours cette anecdote, mais j'ai reçu quand même des smileys tristes. Ah, tu t'auto-édites? Smiley triste. Ok. Donc oui, c'est du, c'est du boulot, mais après, moi, ça me plaisait de faire autre chose que de la BD.
Oui, bah oui.
Mmh. Et en plus, rapidement, j'ai vu que, par exemple, la distribution, c'est extrêmement relou au quotidien. Donc, en fait, moi, j'ai ma sœur, à l'époque, qui était en chômage technique, parce qu'elle tenait un club de rugby et que, ben, avec le Covid, elle pouvait plus y travailler. Mmh. Donc, elle s'est mise à m'aider à distribuer. En fait, au final, elle a monté sa boîte de distribution et elle distribue... les livres de la maison d'édition que j'ai montée. Donc bref, en me faisant accompagner par ma sœur, j'ai une amie graphiste qui a fait la maquette. Il y a Damien Filiatre de Misma, elle stocke affiche, qui a fait mon suivi de Fab, qui l'a fait, il me l'a proposé, il l'a fait hyper bien parce que bon, c'est un très bon éditeur. Il y a eu, en fait, tout le monde m'a donné des conseils, j'ai été épaulée par plein de gens, ce qui fait qu'en fait, à la fin de cette expérience, je me suis dit, ouais, en fait, j'ai fait mon livre, mais je l'ai pas fait seule.
Oui, pour une année exemplaire.
Oui, et j'ai eu une amie à moi qui travaille au-dessus de notre atelier, qui est dans un autre atelier, qui est correctrice orthographique professionnelle. Elle a fait la correction orthographique. Donc, au final, j'ai été
hyper bien entourée.
Ah, ben, j'ai fait un livre de qualité professionnelle. Enfin, je pense pas que le livre aurait été mieux fait pas chez un éditeur parce que, en tout cas, au niveau technique, il a été parfaitement accompagné par tout le monde. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et le livre, a bien marché, ce qui est pas forcément le cas, hein, de tous les bouquins qu'on peut auto-éditer, mais le mien en plus il a eu un bel écho du coup en presse et du coup bah j'ai eu beaucoup de commandes de librairie.
Mmh.
Et j'ai fini par les couler, là je dois être à 6500 exemplaires, ce qui pour un livre normal c'est déjà pas mal dans le contexte actuel,
mais
et pour un livre auto-édité c'est carrément un bon chiffre.
Hey, j'interromps quelques secondes cet épisode car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord Sens Créatif qui est gratuit et ouvert à tous. Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon, ça m'aiderait énormément. Et ainsi, vous deviendrez membre du Patate Club, histoire d'accéder à des tonnes de bonus. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode ou attendez la fin, un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Allez, retour à l'épisode.
Mais c'est parce que tu t'es mis en marche aussi. Moi, j'aime bien voir ça un petit peu comme c'est dans le Seigneur des Anneaux où tu pars en quête.
Ouais.
Et puis au fur et à mesure, parce que t'as dit sur les réseaux sociaux, vas-y, je lance un crowdfunding.
Ouais.
Et puis au fur et à mesure, donc t'as eu des petits gens qui disaient, ouh, c'est triste. Mais en fait, au fur et à mesure, t'as des alliés qui se sont rajoutés,
voilà,
et qui ont fait la communauté des Amandelles, quoi. Enfin, la communauté de l'anneau.
Voilà,
de...
bah, déjà, j'ai eu mes petits lecteurs. C'est-à-dire que moi, je suis pas quelqu'un qui a une énorme communauté de lecteurs. Non, vraiment, j'en ai, mais on va dire d'acheteur. J'ai plus quelqu'un qui a une.
Enfin,
je veux dire, je vends pas 50 000 BD. Moi, je vends correctement, mais je suis dans les personnes qui vendent plutôt dans les 5 000, 6 000, dans les 3 000, 5 000. J'ai peut-être une ou deux BD qui sont passées au-dessus, mais c'est quand même assez rare. Mais par contre, elle est solide. C'est-à-dire que j'ai une communauté de lecteurs qui me suit et qui me soutient et qui est d'ailleurs, je pense que c'est la meilleure qui existe.
Bien
hein,
sûr.
C'est
sûr.
Mes lecteurs sont quand même les plus cool. Mes lectrices sont quand même les plus cool qui soient. Mais donc voilà, j'ai une vraie communauté de lecteurs et donc mais il suffit de 700 personnes pour faire un livre, hein, en fait. Il n'y a pas besoin d'en avoir 10 000.
Enfin, tu veux dire qu'ils vont l'acheter? Ou...
Bah,
non,
pour monter, en gros, pour pouvoir financer mon livre et gagner de l'argent dessus, on va dire 800 personnes, ça suffit. 700, même 500, ça suffit, mais à 700, 800, on est carrément à 10 000 euros de côté, quoi, pour soi.
Oui, oui.
Donc on gagne déjà au moins quasiment autant que chez un éditeur, voire beaucoup plus, selon chez qui on est. Mais bref, donc moi, je suis arrivée après ça en me disant, mais en fait, il faudrait créer une plateforme. Il faudrait créer une maison d'édition qui soit aussi une plateforme de financement participatif.
C'est génial.
Pour faire ce système, mais en faire un système collectif où on s'entraiderait au niveau de la diff et de la communication, au niveau de la pub, quoi, en gros.
Mm-hmm.
Et donc, en fait, des gens qui ont des gros profils Instagram, des grosses communautés pourront soutenir les autres auteurs qui se lancent. Après, on n'oblige pas les gens à nous suivre d'une carrière, mais au moins le temps qu'on est, par exemple, là, on est donc. Je me suis dit, et puis j'avais fait mes calculs et j'ai bien vu que si on faisait ça, l'auteur il gagnerait 4 à 5 fois plus que ce qu'il gagnait chez un éditeur normal, sachant qu'il gagnait un peu moins que dans un crowdfunding normal puisque on prend en charge, la maison d'édition prend en charge beaucoup de choses. Mais l'idée c'était, on va dire à l'auteur de constituer sa propre équipe de travail ou on va l'aider à la constituer. On va, au départ, il devait stocker, mais finalement, on stocke pour lui, à part s'il veut vraiment le faire lui-même, mais a priori, on stocke pour lui, on distribue pour lui par le biais de ma petite sœur qui a créé sa boîte. On lui trouve un suivi de fab, un graphiste, un accompagnateur éditorial s'il en a besoin, parce qu'il y a certains auteurs qui ont bossé avec un éditeur. Hein, faut pas. Moi, je pense que le boulot d'éditeur, il est ultra important. Il n'est pas toujours indispensable. On s'accorde, hein, les éditeurs sont bien d'accord avec moi, il y a des auteurs qui n'ont pas besoin d'un suivi éditorial parce que ils ont déjà une grosse carrière, que leur projet est solide,
oui,
et que ils ont pas besoin d'un suivi éditorial. Je veux dire, quand quelqu'un comme Soulcier fait une anthologie de ses dessins de presse chez Exemplaire, il a pas besoin d'un éditeur. Il a besoin de quelqu'un qui l'aide à faire sa maquette. Si encore il est graphiste, donc il l'a fait lui-même. Mais je veux dire, il a besoin de quelqu'un qui va faire le suivi de Fab parce qu'il a pas le temps de le faire. Mais néanmoins, il a pas besoin d'un suivi éditorial, donc il l'a fait lui-même. Il a pas besoin d'un maquettiste parce qu'il l'a fait lui-même. Donc en fait, en gros, on va prendre les le savoir-faire de chaque auteur et on va voir de quoi il a besoin. Et en fonction de ses besoins, on va lui créer une équipe sur mesure. Donc on a eu pas mal d'auteurs qui choisissent, ils disent, bah moi j'ai un ami qui est graphiste, j'ai envie de le faire avec lui ou avec elle. Quelqu'un va dire, bah moi j'ai besoin d'un accompagnement éditorial, bah je connais telle personne qui par ailleurs est freelance mais travaille aussi chez tel éditeur. Mmh. Donc on a des éditrices, ouais, d'autres maisons d'édition qui travaillent avec nous sur des projets précis. Donc l'idée, c'est vraiment, et par exemple, ben pour parler de l'artichaut puisqu'on en parlait,
oui,
avant,
oui, oui.
Et ben Anouk Ricard, par exemple, son livre va être suivi par Yacine,
mm-hmm,
qui travaille à l'artichaut et qui connaît Anouk parce qu'il a déjà travaillé avec elle, donc il va la suivre sur son projet chez Exemplaire. Ça va être son éditeur chez Exemplaire,
oh,
et son directeur, d'accord, artistique.
Mm-hmm.
Donc il fait le suivi de Fab, il va faire la maquette. Donc en fait, c'est, et donc chaque auteur comme ça se fait accompagner par sa petite équipe. Et si elle a pas de d'équipe, et ben voilà,
on lui, vous prenez le relais.
On lui en constitue une, parce, mmh, qu'on a quand même, voilà, et l'avantage d'avoir,
ouais,
un gros réseau.
Ouais, ouais.
Et puis, voilà, par exemple, c'est pour l'instant Damien. Alors, Damien, aujourd'hui, il est adorable et il fait quasiment tous nos suivis de Fab. Le jour où il pourra plus, ben, il faudra qu'on trouve quelqu'un d'autre, mais j'aimerais bien qu'il continue. Donc, Damien, qui par ailleurs est l'éditeur de Misma, fait le suivi de fabrication de nos livres.
D'accord.
Et en fait, donc, du coup, c'est tout à fait informel. Et moi, par exemple, pour mon livre, je vais avoir la correction orthographique est faite que par la même personne, parce que ça, on voulait pas le laisser au choix de l'auteur.
Mmh.
Mais c'est hyper marrant. Et puis au final, donc les auteurs lancent leur crowdfunding chez nous, on prend un plus gros pourcentage parce qu'on doit gérer plus de choses à Exemplaire, mais dans le crowdfunding, quand par exemple vous faites quelque chose chez Ulule ou chez KissKissBankBank, c'est à peu près 8%,
mm-hmm,
ce qui est prélevé.
Oui.
Nous, on prend plus parce qu'on est obligé, on a des frais, on prend 15%, juste la maison d'édition, pas les gens qui vont travailler sur le livre. Mais on ne prend rien sur les goodies, donc c'est les choses en plus que l'auteur va vendre,
oui,
par exemple ses livres dédicacés qui va vendre plus cher, des tote bags et tout, ça on prend rien. Donc en fait ça s'équilibre au final. Je pense qu'on est à peu près dans les mêmes prix que Ulule, sauf que derrière nous on fait le vrai travail d'une maison d'édition, on a un comité de lecture. Et surtout aussi la chose qui est différente par rapport à un éditeur classique, c'est que chaque personne travaillant sur le livre est intéressée à un pourcentage sur le livre vendu.
Ah oui, oui, oui.
Donc par exemple, un graphiste, il va pas être payé en fixe à l'avance, il va être payé
en fonction des ventes.
Un pourcentage des ventes. Et ça va pareil avec la correction orthographique, ça va pareil avec le suivi de fabrication, et c'est pareil avec la personne qui fait la com. À Exemplaire, elle touche un pourcentage sur tous les livres.
Et quel est l'avantage de faire un pourcentage?
L'avantage de faire ça, c'est qu'on n'avance pas de trésorerie, puisque c'est que par crowdfunding, donc Exemplaire n'avance rien.
Ouais.
Et l'avantage, c'est que, et c'est un pari, hein, mais c'est qu'au final, chacun va mieux gagner, parce que en gros, on a fait un calcul de pourcentage où les prestataires, donc, les graphistes, les correcteurs orthographiques, rentrent dans leurs frais à peu près à 2/3 des ventes de la première édition, à peu près, mais ça peut être même avant, et à partir d'un certain seuil, ils regagnent sans plus rien faire.
Ouais.
Donc le pari que nous, on a fait, et on va voir, on a demandé à tout le monde aussi d'être patient et d'attendre un an pour voir si ça marche,
ouais,
c'est que tout le monde gagne plus en fait, mais tout le monde prend un risque et tout le monde aussi a intérêt à ce que le livre se vende.
Bien sûr, du coup ça crée aussi une solidarité entre,
oui,
vous.
ça crée aussi une motivation à ce que le livre marche, quoi. Et après chaque auteur, lui quand même, est libre, il a un portefeuille, il est libre s'il a envie de donner beaucoup plus à ses graphistes parce qu'il estime que les graphistes ont fait un travail beaucoup plus important, il est tout à fait à même de le faire. Moi j'arrive derrière pour modérer.
Oui.
C'est-à-dire qu'à des moments, je sais que j'ai été un peu étonnée des fois des répartitions, mais bon, l'auteur étant content, les graphistes étant contents, tout le monde étant
content,
j'ai envie de dire super, mais je veille à ce que ça devienne pas un truc généralisé, parce que l'idée c'est pas non plus que l'auteur gagne beaucoup plus au détriment de tous les gens qui vont bosser pour lui et qui
bien
vont
sûr
crever la dalle.
Mm-hmm.
L'idée c'est que tout le monde s'en sorte mieux,
oui,
mais comme on a beaucoup moins de frais, d'abord on n'a pas de locaux. Ensuite, c'est
Les
lecteurs, hein, qui investissent, donc il n'y a pas un investissement de la part de nous.
Ouais, ouais, c'est malin.
Il restait l'angle mort, on va dire, la fragilité de notre structure, c'était que au départ on pouvait pas tellement lancer des jeunes auteurs, et on nous disait, ben, et c'était une vraie réflexion, ben oui, mais là votre problème c'est que comme chaque livre est autonome, à part qu'on fait une promotion solidaire, un livre qui génère beaucoup d'argent, ben il génère beaucoup d'argent pour son auteur Et je génère des pourcentages pour tout le monde, mais au final, on va pas utiliser l'argent de l'auteur pour réinvestir chez un jeune auteur.
Oui.
Et ça, on a trouvé deux solutions pour le changer. Donc, okay. On a pu changer ça.
Vas-y.
La première solution qu'on a trouvée, c'est de faire du coaching, c'est-à-dire quand on voit là, par exemple, on suit une jeune autrice, Caroline, qui a un compte Instagram qui s'appelle Caro et les Zinzins, et qui une jeune autrice corse qui raconte un peu sa vie, sa vie un peu fofolle de jeune femme dans la vingtaine qui sort pas mal, qui fait pas mal d'abus, enfin, et puis qui a une façon de raconter hyper drôle mais qui est très jeune et donc qui avait une communauté de lecteurs modeste qui commençait à augmenter, et ben on lui a proposé de la coacher. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une de nos éditrices qui la suit depuis quelques mois et qui on lui a dit voilà, si t'arrives à avoir plus de 10 000 followers sur Instagram, on te lance.
Okay.
Et donc elle l'a dépassée. Mmh. Et donc on a dit allez banco, on la lance. Donc on prend aussi, on tient compte du fait qu'elle est toute jeune. Donc on essaie de faire un livre pas trop cher parce que ses lecteurs, je pense, n'ont pas forcément beaucoup d'argent.
Ah oui.
Ils sont jeunes.
Oui, c'est juste.
Tout est conçu comme ça. Le livre, l'idée, c'est qu'il coûte pas trop cher. Et on a un deuxième système, et là qu'on est en train d'expérimenter avec Marc Dubuisson,
oui.
Qui donc un pied, qui finit son crowdfunding et qui a un énorme succès, c'est que les auteurs dans leur contrat s'engagent, s'ils dépassent une certaine somme, à bloquer 5 000 euros. Pour parrainer un jeune auteur.
Ah.
Et là, donc, Marc,
c'est trop bien.
Ouais, et du coup, ben, il y a des auteurs qui peuvent pas le faire, tout simplement parce que quand on a un auteur qui arrive à récolter 18 000 euros, en réalité, il en garde que 7 000 dans sa poche.
Oui, donc, bon, 5 000.
Ça passe en ouais. Dépenses et tout, et donc, il faut bien qu'il ait cet argent-là pour manger.
Ouais.
Maintenant, s'il fait un crowdfunding comme Marc, il dépasse 35 000 euros, et qu'en plus, il gagne sa vie aussi en faisant de la presse, donc, lui, il a accepté, de parrainer un jeune auteur qui n'a pas, ou une jeune autrice qui n'a pas encore choisi. Mais en gros, on bloque une partie de ses fonds pendant 6 mois. On trouve un jeune auteur et il le lance. Et si le jeune auteur ne remplit pas ses objectifs, donc je rappelle que dans un financement participatif, on se donne un objectif. Nous, en général, il est entre, on va dire 8 000 et 10 000 euros, ce qui est le minimum pour fabriquer un livre, et l'expédier. Et ben, si le jeune auteur, la jeune autrice n'arrive pas à atteindre cette somme, Marc, tel un Robin des Bois, donnera ses 5 000 euros, une partie, pour compléter les objectifs de l'auteur. Sachant que nous, on va tout faire pour que l'autrice ou l'auteur n'ait pas
besoin
de compléter ses, enfin, que s'il atteint ses objectifs, eh ben Marc repart avec, j'ai envie de dire, avec sa cagnotte.
Oui.
Mais ou éventuellement sponsorise quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, le jeu, c'est que si son autrice, si son filleul ou sa filleule remplit ses objectifs, il récupère la donne. Hein. C'est juste qu'il prend un risque.
Ouais, bien sûr.
Et
ouais.
Ça change tout parce que, en fait, c'est déjà ce qui se fait dans les maisons d'édition. L'argent généré par les bons vendeurs.
Ah oui, les gros poissons.
Mais d'habitude, l'auteur, il a rien à dire là-dedans. C'est-à-dire qu'il sait pas qu'est-ce qu'on va financer avec l'argent qu'il a généré.
Là, vous redonnez le pouvoir aux auteurs.
Là, c'est l'auteur qui choisit qui il a envie de soutenir. Voilà.
C'est beau.
Et on a misé sur, on a fait le pari que les auteurs voudraient le faire. Et il y aura pas énormément, je veux dire, par an, on va pas avoir tous les auteurs qui vont faire des crowdfunding de fou. En général, là, on est hyper contents. On est tous dans entre 18 000 et 30 000 euros de crowdfunding. Donc, ce qui est déjà super. Mais c'est rare. Je pense des auteurs qui vont dépasser les 30 000 et 35 000, ça va être rare. Mais s'il y en a 2-3 par an, bah, ça veut dire qu'on peut lancer par an 2-3 jeunes auteurs.
Oui.
Et du coup, moi, j'ai envie de dire, on remplit aussi un contrat qui est de que ça profite aussi aux jeunes et aux gens qui démarquent. On se retrouve pas dans une structure qui ne profite qu'aux gens qui ont déjà une notoriété ou en tout cas une assise. Et ça, c'était un peu la fragilité de notre projet. Et je trouve que là, avec cette façon de faire, on a trouvé une solution qui est.
C'est un cercle vertueux. Ouais, c'est un pari, c'est un risque, mais c'est un cercle vertueux.
Après, on risque. L'auteur, ce qui risque, l'auteur cède ses droits très peu de temps chez exemplaire. Il cède 2 ans.
Ok.
Si il réimprime, il cède 4 ans. Ben, ça va de 2 à 4 ans. Ensuite, c'est tacitement reconduit. Hein. On lui rend pas tous ses droits au bout de 2 ans, mais s'il souhaite récupérer ses droits et vendre son livre ailleurs et tout, il le fait. Nous, chez exemplaire, on est parti du principe qu'on était contre l'idée de récupérer les droits jusqu'à 70 ans après la mort du descendant direct, enfin, un truc un peu affreux.
Ouais.
Nous, on a décidé ça. On a décidé aussi qu'on ne prenait aucun droit sur rien à part le numérique parce que c'était pour pouvoir continuer d'avoir cette répartition des droits vertueuse. Il fallait qu'on ait le droit numérique. Mais en gros, évidemment, l'auteur ne nous cède pas les droits du visuel, ne nous cède pas les droits étrangers. Nous, on ne prend les droits que pour la langue française. Et que pour une durée limitée, à part si l'auteur souhaite continuer à travailler avec nous. Et pour les droits étrangers, ben, on est en contact avec une chargée de droits, une agente, chargé de droit à l'étranger et qui peut se mettre directement en contact avec nos auteurs et négocier avec eux. Mais parce que normalement, un éditeur prend la moitié. En gros, si y a ces éditeurs qui cèdent les droits en Espagne, qui sont en général, en plus, ils avancent pas très fort, ben, il prend quand même la moitié pour lui. La moitié, ça va à l'auteur, puis il y a une partie qui va à l'agent. Mmh. Mais là, dans notre système, l'agent prend, je sais pas, 15 ou 20%, c'est quand même pas mal, mais parce qu'elle démarche. Mais le reste va à l'auteur. Nous, on touche rien en tant qu'exemplaire. On prend vraiment ce dont on a besoin pour pouvoir faire fonctionner la structure de manière optimale, sachant que mon associé et moi. Donc, si je dois reprendre, alors je suis désolée, j'ai fait une grosse digression, mais si je dois reprendre l'histoire du début, quand j'ai me suis dit tiens, ce serait bien que on monte une structure, il faudrait une plateforme et tout. Il se trouve que au rez-de-chaussée de chez moi, il y avait des locataires qui se sont installés il y a en même temps que nous quasiment, dont lui est ingénieur en informatique. Et cette personne-là, donc Antoine, est devenu un ami, est devenu un copain, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui a travaillé du coup plusieurs mois dans mon atelier parce qu'il cherchait un endroit pour bosser. Donc on a fait connaissance, c'est quelqu'un que j'aimais bien. Et quand j'ai voulu monter ce projet, je me suis dit bah je vais lui demander à lui puisque bah oui. Il est ingénieur en informatique et tout ça. Et je suis tombée à un moment de sa vie où il en avait marre de faire ça et où il avait fait une formation pour devenir menuisier.
Ah oui.
Puis il avait réalisé qu'on était à Marseille, qu'il n'y avait pas tellement de bois. En fait, on n'est quand même pas une région de bois, qu'il devait aller dans un endroit assez loin de chez lui. Enfin, c'était compliqué. Du coup, il avait accepté un boulot, comme il a quand même un poste assez demandé. Il a trouvé très vite un boulot, c'était dans l'eau de Marseille, aux eaux de Marseille, qui l'ennuie un peu. Et moi, je lui ai dit, voilà... est-ce que ça te dit qu'on monte une maison d'édition ensemble où il y aurait une plateforme numérique qui ferait du financement participatif? Est-ce que tu te sens capable de faire ça? Il me dit bah ouais.
Allez,
et
c'est parti.
Donc on a fait pour commencer un crowdfunding et on a réussi et voilà et lui il m'a dit oui tout de suite. Alors que on avait tout calculé, on avait bien vu qu'on gagnerait pas des milliers d'essences, surtout pas au début, parce qu'on voulait prendre très peu pour pas justement le faire au détriment des auteurs. Et par ailleurs, j'ai appelé des auteurs autour de moi, ceux qui avaient des bonnes communautés internet, ça a été vraiment des appels un peu aléatoires entre les gens que je connaissais, les gens dont je me suis dit ah ça pourrait coller avec le projet, et j'ai eu 10 auteurs qui ont répondu présent, dont certains je pensais vraiment, j'ai demandé pour faire genre Anouk Ricard, je me suis dit ouais elle va jamais dire oui, ça va dire c'est quoi ce projet. Et en fait j'appelle Anouk et là elle me dit ah mais si, mais moi j'ai un projet dont j'ai envie de faire depuis longtemps, puis je m'étais même dit pose action de l'auto-éditer. Et en fait je me suis rendu compte qu'autant il y a 15 ans j'en avais parlé de ce projet, j'avais déjà
ça fait déjà 15 ans que c'est dans les tuyaux,
une idée comme ça. Ouais. Et les gens me riaient au nez. Je me rappelle de Boulet qui m'avait dit, mais enfin, Lisa, moi, c'est pas mon job d'auto-éditer un livre. Parce que c'était à partir du moment où il y a eu les blogs BD. Je disais, mais vous trouvez pas qu'on vendrait beaucoup mieux à vendre directement, avec notre site et tout ça? Et puis, c'était pas du tout le moment. Les auteurs avaient pas du tout envie de se lancer dans les trucs qu'ils trouvaient compliqués. Et là.
Ça paraît compliqué, mais.
Ouais, mais en fait, là, comme on est en fait, au fur et à mesure des mois, on a trouvé des solutions pour délester l'auteur d'un maximum de charges. Il a quand même plus de boulot, que s'il le faisait tout seul, mais que s'il le faisait chez un éditeur. Mais en gros, donc cet auteur, ces 10 auteurs ont suivi. Et là d'autres dont je pense pas que ce soit un secret, mais Boulet par exemple a annoncé qu'il voulait faire un bouquin avec nous. Ouh. Donc on a moi j'ai réussi, alors j'ai beaucoup travaillé au corps Théo parce qu'il était un petit peu frileux.
Ah, Théo Grosjean.
Ouais, parce qu'il avait énormément de travail mais je lui ai dit non mais tu viens.
On s'occupe de toi, c'est bon.
Oui, puis j'ai dit, c'est pas parce que tu te mets dans le crowdfunding des 100 000 de l'argent qu'on va récolter pour monter la boîte, que tu vas le faire ton livre tout de suite, Tu auras pas besoin de le faire avant 2 ans. Donc, il a fait bon, d'accord. J'étais trop contente parce que, d'abord, j'adore son travail. Son boulot, ensuite, il était le profil formidable. Parfait. Pour participer à ce projet. Et donc, 10 auteurs se sont alliés à moi. Et tous ensemble, on a fait une demande de crowdfunding et on a eu 100 000 euros.
Ouais.
Et donc, avec ces 100 000 euros, on a pu créer la plateforme de financement participatif maison d'édition pour un prix beaucoup plus bas puisque c'est...
C'est pas Ulule, en fait.
Ah non, on a fait Ulule pour avoir les 100 000 euros.
Et puis derrière, maintenant, c'est complètement indépendant.
Voilà, derrière, on a créé une... Et en plus, Ulule, on était quand même super fair-play parce que, quelque part, on créait une maison d'édition, mais c'était clair que ça allait être un petit peu une plateforme aussi de financement participatif. Oui. Et ils ont été adorables. Ils nous ont vraiment bien épaulés sur ce coup-là. Ils nous ont même proposé un partenariat après. Mais on leur a dit, voilà, nous, pour l'instant, on préfère être complètement autonome.
Oui.
Et donc, on a monté cette plateforme de financement participatif avec tous nos auteurs qui se sont engagés à faire un livre dans la structure. Parce que c'était un peu con. Moi, je me suis dit, je peux pas monter une boîte comme ça si j'ai pas déjà une équipe d'auteurs qui bosse. Ouais. Ça va être foireux. Et du coup, après être 10, parce qu'il fallait aussi partager les frais, en faisant un crowdfunding, les gens faisaient de la prévente. Donc, les auteurs acceptaient de sacrifier une partie de leurs revenus pour monter la structure.
Et la boîte appartient aux 10 personnes, du coup?
Non, pas du tout.
Ah, ok.
Et aussi, non, elle appartient. En fait, la boîte, c'est moi qui l'ai montée avec Antoine Vitcock, donc, qui est ingénieur. On a monté la boîte à deux. Par contre, ce qui se passe, c'est que les auteurs nous ont avancé l'argent. Dans le contrat, d'ailleurs, c'est écrit, dans le contrat qu'on leur signe, qu'ils nous ont avancé l'argent en participant à cette campagne et en acceptant que les gens préachètent leurs livres avec des bons d'achat, mais que ces bons d'achat servent à financer la structure.
Oui.
Donc, il y a une partie de leur revenu qui est bloquée et que nous, on leur rembourse au fur et à mesure avec nos propres pourcentages.
Oui.
Parce que Antoine comme moi, on a chacun un petit pourcentage pour être rémunéré pour ce qu'on fait, parce qu'on a quand même beaucoup travaillé. Mais cet argent, alors, on le reverse aux auteurs jusqu'à temps qu'il soit remboursé. Donc pour l'instant, ça va mettre un an ou deux. En fait, on avait vraiment vu la fourchette basse. On avait dit, bon, si chaque auteur arrive à récolter 10 000 euros... Et en fait, il se trouve que tout le monde récolte plus, donc on va pouvoir rembourser nos auteurs plus vite que prévu.
Ouais.
Mais c'était pour nous une c'était aussi, je trouvais, une fragilité qu'avait la structure, de dire on peut venir nous voir dans 5 ans, un auteur peut venir en disant bah sympa, vous avez financé votre structure avec mes fonds. Donc ça, on voulait pas que ça arrive, mais on voulait pas non plus être 10, parce qu'en fait 10 à créer une boîte, c'est très compliqué.
Ah oui, bah oui, j'imagine.
Et pour ce projet, moi je me sentais quand même assez solide. J'avais énormément réfléchi au projet. Antoine, il était hyper compétent et on savait que tous les deux, on arriverait, en étant que deux, à faire. Et on a travaillé quand même avec des graphistes professionnels, avec des intégrateurs. On a bossé avec toute une équipe. Déjà, il y avait beaucoup de gens. On s'est dit, si en plus on doit décider tout à 10, ça va être l'enfer.
Ah oui, non,
donc
oui.
Le projet, on a monté la boîte à deux, mais par contre très vite, tous les auteurs qui travaillent avec nous, on est vraiment dans un fonctionnement aussi sociocratique, dans un fonctionnement tout à fait collectif, où par exemple quand une nouvelle personne entre dans la structure, on décide tous ensemble de qui, avec qui on voudrait travailler, on a un comité de lecture. Il y a aussi plusieurs personnes qui sont intéressées, par exemple Sandrine Deloffre, Garage de l'offre. Elle fait la com, par exemple, de la boîte. Elle touche un pourcentage sur chaque bouquin pour faire notre com. Donc, elle anime tous les réseaux sociaux. Il y a une autre éditrice, Marion Amirgagnan, qui, elle, suit d'ailleurs la jeune autrice et aussi nous donne du conseil. Il y a Cyrielle Si, qui fait partie du comité de lecture, même si elle fait pas de bouquins chez nous. Donc, en gros, on a vraiment un fonctionnement hyper collectif, sachant que... Et ça, je tiens aussi à le dire, on n'est pas fermé à intégrer des personnes à notre capital. Et de toute façon, le capital, il est 2000 euros, donc ça va. C'est qu'on n'a pas de problème à l'idée d'intégrer des gens, mais on veut des gens qui ont vraiment envie d'être là pour rester. Pour l'instant, les auteurs qu'on a, ils sont là pour l'instant. Ils sont déjà partis dans d'autres projets. Ils ont, par exemple, pas forcément l'objectif de faire tous leurs livres chez nous.
Oui, bien sûr.
Ils ont une vie ailleurs, et je l'entends. Donc, c'est super qu'ils aient un pouvoir décisionnel et qu'on fasse ça tous ensemble le temps qu'ils sont investis dans la structure. Demain, ils s'en vont, ils sont aussi libres de s'en aller.
Oui.
Et on voulait pas diviser... Mais à terme, je pense, dans les années qui viennent, probablement qu'on va prendre des personnes qui vont s'associer avec nous, parce que c'est pas le même investissement quand on est associé. On est beaucoup plus motivé... mais
jusque-là, tout fonctionne au pourcentage.
Tout fonctionne au pourcentage.
Genre, la personne qui
Sauf
fait la promo.
L'imprimeur. Oh, oui. On est obligé parce que lui, il imprime tous les livres d'un coup.
Oui, bien ça.
Deux livres en attendant d'avoir trois livres qui se vendent. Donc, à part l'imprimeur, et même le comptable. Ah oui. Parce que donc, quand les planètes s'alignent, c'est vraiment incroyable. Donc, j'ai cet ami à qui je propose de faire le projet et qui me dit, allez, banco, on y va. Et sur ce, je suis contactée par l'expert comptable de Marion Montaigne. Qui s'appelle Benjamin Cerdan et qui est en gros un passionné de BD, qui a un doctorat sur la diversification, il a un doctorat sur la TVA, je crois, mais il a fait aussi un mémoire sur la diversification des revenus pour les artistes auteurs, pour les auteurs de BD.
Okay.
Quand il a commencé sa carrière, il aurait souhaité être l'expert comptable des blogueurs.
Okay.
Il est arrivé en même temps que les blogs BD et il m'avait proposé d'être mon comptable, mais à un moment où je venais de prendre une comptable. Donc j'avais dit que je suis désolée, je viens de prendre comptable.
Oui, ouais.
Et en plus, cette expert comptable, elle me connaît, elle sait que j'ai vraiment un problème avec l'administratif. Et puis je bosse avec elle depuis des années, puis j'avais pas envie de changer. Mais par contre, lui, il a dit, quand je me suis auto-éditée, en fait, il a repris contact avec moi. Et là, il m'a parlé d'une structure qu'il avait lui-même créée pour aider les auteurs qui voulaient diversifier leurs revenus. Parce que pour la petite histoire, il y a peut-être un peu moins d'un an ou un an, l'auteur qui s'auto-éditait devenait éditeur. Et donc, ça lui faisait des problèmes au niveau de la déclaration de ses revenus, ça lui faisait des frais supplémentaires. Et donc, en fait, Benjamin Cerdan avait créé une structure qui permettait de faire comme une espèce de faux éditeur, pas un faux éditeur, c'est une structure qui prenait l'argent des auteurs et qui leur redistribuait en droit d'auteur, en gros, presque comme une société de portage, mais c'était un système pour permettre à l'auteur d'avoir sa compta gérée et de lui être payé qu'en droit d'auteur et du coup de pas changer de statut. Sauf qu'entre temps, bah, cette loi a changé. Maintenant, si on s'auto-édite, on reste auteur, on devient pas éditeur.
Ok.
Mais il était quand même très motivé par des nouvelles expériences et quand on lui a parlé de notre projet, il a dit « Ah mais moi, banco, je vous suis ». Et d'ailleurs, moi je lui avais dit « Mais est-ce que tu veux t'associer au projet ?» Il a dit « Je peux pas être votre comptable et en même temps votre associé ». Donc il est resté hors de l'association, parce que moi j'aurais été l'idéal d'être associé avec
lui. Bah oui.
Mais c'est pas possible, et en fait je comprends parce que on peut pas être le comptable et ça fait vraiment, je pense que partie prenante.
Oui.
Je pense qu'il y a conflit d'intérêts. Mais par contre il a accepté de fonctionner avec notre fonctionnement, à dire je suis d'accord pour être payé au pourcentage.
Et donc sur le pourcentage de tous les livres qui sont payés par moi ou...
Ouais, de tous les livres qui sont vendus, il y a une somme. Et cette somme-là, il prend un pourcentage. Mais il a dit, moi, mon idée, c'est pas de me gaver, c'est que plus vous allez faire de livres, moins mon pourcentage va être élevé. Et quand il a vu la première année, il a vu le crowdfunding qu'on a fait, il a dit, je vais laisser tomber, je suis rentré dans mes frais, c'est bon. Il a dit, en plus, ça fait venir des nouveaux clients. Parce qu'il y a plein d'auteurs qui, du coup, le connaissent et puis se disent, si on veut bien bosser avec Benjamin, lui, c'est son but dans la vie d'avoir des auteurs de BD comme clients.
Et qui s'auto-éditent.
Et donc, ouais. Et en plus, il a été d'accord pour n'être rémunéré que dans un an ou deux. Il a dit, moi, je vous suis. Je vous aide et à monter votre boîte, je vous aide à faire tout le financement. Et puis dans 2 ans, on fera un bilan comptable et là on verra combien si le pourcentage ça marche pour moi. Donc on a eu aussi cette personne là qui a fait quand lui a débarqué dans le game.
Ah oui.
Et qu'il était spécialisé là-dedans et que c'était son métier et qu'il avait déjà il travaillait déjà avec plusieurs auteurs que je connaissais. Je me suis dit là les étoiles sont alignées parce que moi on m'avait toujours dit quand tu montes une boîte faut toujours avoir un comptable tout de suite. Le fait qu'il arrive, le fait que j'ai mon ami ingénieur et le fait que moi j'arrive à un moment de ma vie où j'avais envie de faire ça, c'était le moment de monter la boîte.
Ben déjà ça paraît, enfin, c'est hyper novateur tout ça. Enfin ça et je me demande mais que disent tes amis ou les personnes que tu connais dans le milieu de l'édition classique quand ils voient ce que t'as monté.
En fait il y en a beaucoup qui regardent ça avec circonspection, c'est-à-dire qu'ils attendent de voir.
Ouais.
Il y en avait qui me disaient, de toute façon, tu vas finir par être une maison d'édition normale. J'ai dit, si c'est ça, j'arrête, parce que moi, je compte pas faire la révolution artistique. Les livres qu'on édite, c'est des livres qu'on pourrait éditer dans notre maison d'édition. Je vais pas faire croire que je suis en train de réinventer l'eau chaude. Par contre, j'ai envie que les répartitions de droits, elles soient vraiment meilleures pour les auteurs. Et si ça ne peut plus avoir lieu, la maison d'édition n'aura plus lieu d'être et je quitterai le navire. D'abord, je suis pas suffisamment bien payée pour pouvoir après rester accrochée par la pas du gain. Donc, j'ai fait exprès aussi, j'ai fait en sorte de pouvoir en bénéficier en tant qu'autrice. Et mon associé en a bénéficié aussi quand il a construit le site, parce qu'une partie des fonds est quand même allée pour le payer, parce qu'il est obligé de manger il a fait ça pendant 6 mois, il allait pas être clochard, donc on l'a quand même rémunéré pour fabriquer le site. Et très mal, c'est-à-dire qu'il a accepté d'être assez mal rémunéré. Mais néanmoins, donc il y a eu de la circonspection, mais il y a eu énormément de gens du milieu d'édition qui sont venus taper à notre porte en disant on veut vous aider. On a envie.
Donc c'est qu'ils ont conscience de ce qui déconne un peu.
Oui, parce qu'on a beaucoup d'éditeurs. Alors je parle pas des têtes. Je parle des éditeurs dans des grosses maisons d'édition. En fait, il y a plein d'éditeurs. Il y a pas que Jacques Glénat, pas que Guy Delcourt, il y a pas que Flammarion. Enfin, il y a pas que Charles Gallimard. Il y a des éditeurs en dessous. Et il y en a qui sont venus nous voir en disant mais moi j'ai envie de participer à votre projet. Je trouve que il est hyper porte. Enfin, en fait, il y a plein de gens qui ont cru à ce projet. Il est, en fait, si on réfléchit, c'est bête comme chou. J'ai pas inventé le crowdfunding. Le crowdfunding, ça existe depuis hyper longtemps.
T'as assemblé plein de, d'outils
le fait de
qui sont alignés.
En fait, c'était d'en faire quelque chose de collectif qui était nouveau. Mais y a rien qui a été inventé. D'abord, faire un livre. J'ai pas inventé comment faire un livre,
Ah non.
J'aurais aimé, mais c'est pas le cas. Monter une maison d'édition, je suis pas allé inventer l'eau chaude. Le crowdfunding, ça existait déjà. Mais c'est vrai que là où il fallait le faire, et là où j'étais dans un moment de ma vie où j'avais la disponibilité de le faire, c'était de se dire je vais prendre des mois et des mois de ma vie et je vais construire un projet collectif autour de cette possibilité qu'offrent les réseaux sociaux, Internet et le financement
par tous les outils sont arrivés à maturation pour que tu puisses les aligner pour faire quelque chose de cohérent.
Et les compétences des auteurs, parce qu'aujourd'hui on a des auteurs à qui on a demandé d'être beaucoup plus polyvalents qu'ils ne l'étaient il y a 30 ans.
Ah oui.
Et donc ils sont capables aussi d'être dans une certaine autonomie qu'ils n'avaient pas. Il y a 30 ans, l'auteur, il faisait son dessin, il l'envoyait à l'imprimeur, enfin il l'envoyait à l'éditeur, il corrigeait les fautes d'orthographe, il scannait, il nettoyait, il faisait tout. L'auteur, il faisait ses planches. Aujourd'hui, l'auteur, on lui demande de tout nettoyer, de faire les couleurs, de livrer des dossiers qui sont quasiment imprimables. Donc en fait, l'auteur, il est de faire sa promo sur ses réseaux sociaux.
Ah mais oui, mais c'est un boulot pharaonique.
Alors, il y a des auteurs qui le font pas, hein, qui ont pas forcément beaucoup de promos sur les réseaux, mais globalement, la jeune génération, ils le savent.
Oui, et puis donc,
pourquoi payer des gens pour faire le travail que fait déjà l'auteur? Moi, j'ai pris le parti de dire, ce que fait l'auteur, il doit être payé pour le faire. Donc, voilà. Donc, c'est de l'argent, il est juste redistribué aux personnes qui font vraiment le travail. Après, le nerf de la guerre, c'est le stock et la distribution. Pour l'instant, on a une solution. L'idée aussi, c'est que, à aucun moment donné, moi, j'ai voulu, par exemple, me couper des libraires, parce que aussi, l'écueil, c'était de dire, ah oui, en gros, vous voulez plus, alors, il y a eu, vous voulez plus d'éditeurs.
Ouais, ouais.
Ah, vous voulez plus de...
C'est la branche sur laquelle on est, quoi.
Bah non, mais c'est dire, ah oui, en gros, vous voulez faire vos livres sans...
Dans votre coin,
Et sans libraire. Tout s'est avéré faux. C'est-à-dire que d'abord, on a des éditeurs dans notre maison d'édition, ou des DA,
ouais.
Ou rien, si vraiment on a un auteur, voilà, comme... moi, par exemple, j'ai pas de DA et j'ai pas d'éditeur, mais parce que mon projet, je l'ai réfléchi depuis son milliard d'années, j'estime qu'il se tient, quoi. Demain, je fais un autre projet, je prendrai un éditeur. Hein. Il y a des projets pour lesquels j'aurais pas pu réussir si j'avais eu un éditeur avec moi. Donc l'éditeur pour moi. Et puis il y a des auteurs à qui, sans l'imposer, on leur conseille forcément. On leur dit, écoute, là, est-ce que tu veux bosser avec un éditeur? Parce qu'on sent qu'ils auront besoin d'être accompagnés. Et le libraire, c'est la même chose. C'est-à-dire que oui, on arrive dans un premier temps à financer nos livres sans libraire, puisque on le fait par crowdfunding. Mais le libraire, c'est le deuxième souffle du livre.
Bien sûr.
Le libraire, c'est lui qui va défendre le bouquin au quotidien pendant toute l'année. Donc moi, je suis pas pour mettre nos livres partout, parce que d'abord, il y a des libraires qui n'en voudront pas, et puis on a un système de vente ferme, on a quand même un système de fonctionnement qui ne plaît pas à tous les libraires. Mais néanmoins, moi, je me bats, et je continuerai de me battre pour que nos livres soient en librairie, comme mon livre Une année exemplaire l'est. Parce que mon livre, ça fait 6 mois que si aujourd'hui je paye mon loyer et je mange, c'est grâce aux libraires. Les particuliers, ils l'ont beaucoup acheté au début. J'ai encore des particuliers qui achètent mon livre, mais soyons tout à fait lucides. Si vous regardez mes relevés bancaires, je vis grâce aux libraires.
Oui.
Non seulement j'ai envie de bosser avec les libraires, mais en plus, les libraires, ils sont indispensables pour que le livre puisse exister en dehors du crowdfunding. Après, ça veut pas dire que l'auteur ne peut pas déjà manger et s'habiller convenablement avec le crowdfunding. Mais ça veut dire que si vraiment il veut que son livre ait la vie qu'il mérite, il faut compter sur les talents des libraires qui sont au front tout le temps. Mais c'est pas tous les libraires et c'est pas tous les livres qui pourront bénéficier de ça. Mais donc nous, on est en train de créer aussi dans notre maison d'édition une interface libraire pour permettre aux libraires de commander des livres chez nous, en toute simplicité, on va dire. L'idée, c'est que le libraire, une fois qu'il a son compte chez nous, il fait son marché, il est débité 3 mois plus tard. C'est de la vente ferme, mais il est pas débité tout de suite, parce que c'est un peu le problème du libraire, c'est d'avancer la trésorerie.
Ouais.
Donc nous, on propose au libraire de pas avancer la trésorerie. Il a un pourcentage qui est pas très très haut, puisqu'il a 35% de remise, qui est un peu moins que ce qu'il peut avoir chez d'autres éditeurs, mais enfin, on n'est pas Delcourt. On n'a pas notre propre réseau de distribution qui nous permet de générer de l'argent juste en transportant nos livres. Et puis, par contre, on offre les frais de port à partir d'un certain nombre d'albums achetés par le libraire, ce qui fait que quand notre catalogue va s'agrandir, pour le libraire, ce sera pas une grosse prise de risque que de commander, mettons, 5 livres de la nouveauté ou 10 livres, et puis un livre de chaque, et d'avoir des frais de port offerts. Donc, on est aussi dans une boucle comme ça, et on a beaucoup de libraires, bon, il y en a quelques libraires, ils n'étaient pas très contents du système, mais on a beaucoup de libraires qui nous soutiennent à fond. En tout cas, pour mon livre auto-édité, et donc je pense pour les livres qui vont arriver, notre fonctionnement, disons qu'il demande au libraire de prendre un risque un peu plus important, dans le sens où il peut pas nous faire de retour si son livre se vend pas.
Ouais.
Donc il va être obligé de le vendre. Mais après, il est pas obligé d'acheter des quantités de livres folles non plus. Donc on va miser sur moins de librairies, mais des librairies qui vont acheter les livres d'auteurs qu'ils aiment vraiment, qu'ils ont envie de défendre. Donc on évite aussi un autre écueil de la BD d'aujourd'hui, c'est la surproduction. Et c'est la mise au pilon. Et c'est ces librairies qui prennent 50 bouquins, qui renvoient 30. Ces stocks dont on sait pas où ils sont. Et puis surtout, on évite vraiment la surproduction. On n'imprime pas des grosses quantités et on réimprime au besoin, mais on est aussi dans cette envie de pas être obligé de mettre un bouquin au pilon, et aussi de savoir que quand il est commandé par un libraire, il va être vendu. Il va pas servir de cale-porte, ou il va pas être dans un coin à prendre la poussière jusqu'au jour où le libraire, en avoir marre, il va le renvoyer. Voilà, c'est une autre économie, mais on peut se le permettre parce que l'auteur fait quand même une grosse partie de bénéfices au moment du financement participatif. Donc le libraire, c'est un partenaire, mais on n'est plus dans la même dépendance au libraire qu'on ne l'est chez un éditeur classique, ce qui fait que on peut travailler main dans la main avec les libraires qui sont vraiment motivés pour bosser avec nous, mais c'est pas un drame si des libraires nous disent bah non, en fait votre système il nous plaît pas.
Oui oui, bah oui.
Et
bah,
on veut
bah,
pas vous tout. Suivre et on dira bah c'est pas grave, voilà. Mais on va par contre ben, je fais un gros truc dessus parce que pour moi c'est ultra important ce truc là et ce serait important que ce soit dans le podcast parce
ah bah oui.
que parce que je vois trop aussi la tentation de dire ah ben on fait du crowdfunding en fait on a plus rien à foutre de tous les autres, ce qui est absolument
oui, c'est pas le cas. Oui.
Moi c'est l'équilibre des rapports de force qui est important oui. pour moi. C'est pas de dire que un morceau de la chaîne du livre n'est pas nécessaire. Il se trouve que ma sœur fait distributeur, mais néanmoins il y a un distributeur. Il se trouve que c'est ma sœur, mais il y en a un. On n'est oui. pas en train de dire qu'on en a plus besoin.
Ouais, ouais.
Et c'est pareil pour les éditeurs. On a des accompagnateurs éditoriaux, on les appelle comme ça, on les appelle pas éditeurs, on les appelle accompagnateurs éditoriaux, qui sont présents et des DA pour certains livres. On est pas. Moi je pense que tout le monde est important. Simplement faut voir. C'est un scandale. Que ce soit l'auteur, alors que sans auteur, il n'y aurait pas de livre, que ce soit l'auteur qui cède tous ses droits, qui cède ses droits audiovisuels, qui cède ses droits dérivés, qui cède ses droits à l'étranger, qui cède ses droits sur 70 ans après sa mort, qui touche des droits merdiques et de plus en plus merdiques, des avances honteuses parfois, que ce soit lui qui doive supporter, qui soit la variable d'ajustement de la chaîne du livre. Ça, c'est insupportable. Et moi, c'est ce contre quoi je me bats. Et il y a d'autres auteurs qui se battent à leur manière pour lutter contre ça. Quand on a les AAA, donc les artistes auteurs en action, quand on a des gens qui se fédèrent et qui s'allient pour essayer de demander un statut digne de ce nom pour l'auteur de BD, l'actrice de BD, moi je les soutiens à fond, mais après je pense que c'est pas incompatible avec une initiative dans le genre de celle qu'on a lancée bien avec sûr. Les autres auteurs. Ouais. Je pense que tout est ça. Moi je crois à la convergence des luttes aussi, et je pense que notre système il n'est pas là pour se faire au détriment d'autres luttes, et il n'est pas là pour casser les pieds aux éditeurs. Il est là pour dire vous nous dites qu'il n'y a pas de solution, bah regardez, on propose un autre système, ouais. Et on espère qu'il va marcher, oui, parce qu'on espère que demain notre auteur de BD sera pas obligé de faire 1 milliard d'interventions en milieu scolaire, il sera pas obligé de faire un autre travail en plus de son boulot de BD qui pourtant est un boulot à plein temps, parce que la bande dessinée c'est quelque part une vocation de moine copiste, parce que c'est un métier quand même très exigeant et qui demande énormément d'investissement personnel et qui est un métier qui est pas évident à mener de bout en bout et qui est très gratifiant, mais qui est un métier qui mérite le nom de métier, quoi, qui prend tout du temps, qui prend du stress. On n'est pas salarié, donc on a toujours l'angoisse du lendemain. Et moi, je trouve que ces gens-là, c'est normal qu'ils puissent se consacrer qu'à leur boulot, quoi. Et que ils aient pas à avoir une angoisse de comment ils vont payer leur loyer. Alors là même que il y a des gens qui sabrent le champagne en fin d'année parce que la maison d'édition a fait 15% de bénéfices en plus, quoi. Et malgré le Covid. Donc moi que ça ruisselle pas, et le ruissellement, ça ruisselle toujours vers le haut. Les lois de la physique, ça s'applique pas pour je suis désolée, le ruissellement, ça s'applique pas pour les riches. Le ruissellement, ça va toujours de bas en haut, hein. Moi, je l'ai jamais vu redescendre sur les travailleurs. Et là
c'est ce que tu essaies de rééquilibrer.
Bah là je prétends pas qu'on va y arriver, enfin, j'espère et j'y crois, sinon je sais pas.
Bah oui.
Et je prétends pas dire qu'on va changer la face du monde, mais moi là pour l'instant, il y a pas d'actionnaires dans notre boîte et personne se fait plein de sous sur le dos des autres, quoi. Personne, tout l'argent, il est redistribué aux gens qui en ont besoin, aux gens qui travaillent, et j'espère de manière représentative de leur investissement. Et d'ailleurs, dans un an, on va faire un bilan, et c'est écrit aussi dans la charte qu'on signe. Chaque année, la répartition de droits doit être re-questionnée, donc on fera un bilan, on dira bah voilà.
Voilà ce qui a marché. Voilà ce qui a marché.
Voilà tel graphiste, il a touché tel pourcentage et il a gagné ça. C'était pas suffisant pour lui, donc va falloir rééquilibrer. Et en fait, on a demandé à tout le monde d'avoir cette patience-là, d'accepter qu'on cherche. Donc il peut y avoir des bonnes surprises, il peut y avoir des surprises moins bonnes, mais que surtout personne ne ressorte de l'expérience en disant je me suis bien fait avoir, quoi. Ça, ce serait pour moi un échec.
Ouais.
Donc j'ai dit à tout le monde, les gars, si à la fin de l'année vous avez pas assez gagné, je parle beaucoup des graphistes parce que ça, c'est eux qui ils touchent pas un très gros pourcentage et ça marche, ils pourront toucher assez à la condition que le livre fonctionne. Donc moi je suis la première à dire, mais si l'auteur doit encore céder 2% ou 3% de ceux qui gagnent pour que une tierce partie gagne plus, on le fera.
Oui, bien sûr.
L'idée, c'est qu'on soit vraiment tous bien à la fin, quoi.
Waouh.
Voilà.
J'ai vraiment l'impression, en t'écoutant, que vous ouvrez un nouveau chemin avec cette initiative. Et j'ai l'impression, vu l'énergie, la passion et tout ce qui est dégagé, Ben, ça va sûrement faire des petits. Il y a peut-être d'autres initiatives, des personnes qui vont être inspirées.
Ouais, ben alors nous, notre idée hein, à terme, c'est de créer des labels. C'est-à-dire que nous, on l'a pas encore communiqué à 100% dessus parce qu'on vient à peine d'exister. On a quand même que quelques... Là, on sort quand même notre premier livre là. Mais nous, notre idée, c'est de dupliquer le modèle. C'est-à-dire que si demain, un groupe de gens motivés a envie de monter sa maison d'édition, et n'a pas l'argent pour le faire, parce que ça coûte cher de monter une maison d'édition, et a envie de fonctionner sur notre modèle économique, nous, on est open pour créer, pour dupliquer notre modèle. C'est-à-dire qu'en gros, ce sera le même fonctionnement.
Ce serait trop bien.
Bah oui. Mais en fait, c'est qu'un groupe de gens qui ont envie de monter une structure éditoriale, ils peuvent venir nous voir, on leur file tous les outils comme les nôtres, ils changent juste, ils auront une URL qui seront la leur, ils changeront toute leur interface, mais par contre, c'est économiquement, ça reste nous. C'est-à-dire que l'argent se transite par nous et les répartitions de droits se font sur notre modèle économique. Mais les personnes pourront avoir, je sais pas, si t'as envie de créer une édition qui s'appelle Petit Choupinou, qui parle de je sais pas quoi et de bosser, ben tu peux le faire chez nous. Tu crées ta boîte. Simplement, ça fonctionne par financement participatif et surtout, on fait les mêmes répartitions de droits. Et donc ça veut dire que la personne qui crée sa maison d'édition n'a pas de dépenses à faire en fait. Elle doit juste trouver une équipe, des auteurs motivés et trouver des gens qui pourront avoir une base de lecteurs suffisante pour faire le crowdfunding. Parce que ça, c'est aussi une exigence du projet, c'est que si tu fais un crowdfunding mais qu'il y a 200 personnes, 100 personnes qui achètent ton livre, ça marchera pas.
Non, bien sûr. Donc, et ça marche maintenant parce que t'as 20 ans de carrière et tout le réseau que tu as et parce que t'es bien entouré aussi.
Ouais, mais après, si on continue...
Ou pas que.
Oui, bien sûr. Non, mais tout participe. Mais après, il y a des jeunes auteurs là qui vont rentrer dans la boucle et qui ont réussi à faire des beaux crowdfunding.
Je parle
de Aurélien Fernandez, par exemple. Ouais. C'est un jeune auteur encore. Il a fait 2-3 livres chez Lapin. Et au final, il a fait un beau crowdfunding chez nous. Donc là, on va avoir donc Caro qui débute, qui va faire son. Alors, elle s'est rendue tête brûlée, elle va faire son premier livre chez nous. Donc on lance aussi des jeunes. Mais c'est vrai que moi, j'aurais pas pu avoir. Je pense que j'aurais pas pu monter cette boîte sans toute l'expérience que j'ai, parce que si, ben, il y a une légitimité. Aujourd'hui, j'arrive à un âge où j'ai une légitimité dans la profession qui fait que, ben, si je propose à Charles Berberian de faire le fou avec moi et de venir faire un projet avec moi, il va dire oui.
Oui.
Je serais rien à 22 ans, 25 ans, peut-être que tout le monde m'aurait ri. D'ailleurs, j'avais essayé, mais j'étais moi-même pas du tout crédible. Mm-hmm. Et puis c'était pas le moment. Il y a des moments aussi pour lancer les projets. Je pense que là, c'est le moment où tout le monde en a marre de mal gagner sa vie dans la bande dessinée. Tout le monde lorgne du côté de l'auto-édition et du crowdfunding, et donc c'était le moment d'arriver en disant, bah regardez, on a notre propre plateforme, venez chez nous. Et là, donc, on a notre programme est fait pour l'année 2021, on a le début 2022 qui est fait aussi, après il va falloir confirmer le tir, quoi, c'est-à-dire
affiner, trouver, corriger, bah,
et puis que les gens qui ont fait un livre chez nous aient peut-être aussi envie d'en refaire un deuxième, et puis que on trouve aussi d'autres gens qui seront intéressés par l'expérience, et donc on a 11 auteurs, il faudrait qu'on ait encore 11 auteurs l'année prochaine ou 20 auteurs pour pouvoir bon, moi de toute façon je fais un livre, j'en referai un autre l'année prochaine.
Ouais.
Moi j'ai signé là.
Ouais, ouais.
Mais l'idée c'est aussi que on fait marcher le bouche à oreille. Et on a aujourd'hui je pense pas mal de jeunes auteurs qui commencent à se dire ah oui, mais en fait peut-être on ferait mieux de proposer notre projet à exemplaire la prochaine fois plutôt qu'à un éditeur qui nous donne 1000 euros d'avance.
C'est ça.
Après on prend pas tout le monde, heureusement on a un comité de lecture et moi je décide pas toute seule, mais l'idée, c'est aussi de protéger les jeunes auteurs de ces espèces d'arnaques dont ils sont victimes en sortant de l'école. Parce que c'est des gens, parfois, ils ont vraiment des grosses communautés, et puis ils se retrouvent à signer des bouquins avec des droits assez bas, des avances mais ridicules, 800 euros, 1000 euros d'avance, c'est rien, quoi.
Ouais, c'est clair.
Et
c'est
ils acceptent boulot. Parce qu'ils sont tellement heureux que quelqu'un les édite, et je me dis, purée, ils seraient tellement mieux chez nous. Ils toucheraient au moins 8 ou 10 000 euros, déjà, ils toucheraient, rien que pour le crowdfunding, ils toucheraient peut-être, au moins 5 ou 6 fois plus que ce qui toucherait ces éditeurs normaux pour un premier livre. Et puis, ils pourraient vraiment actionner leur communauté de lecteurs. Donc voilà, il y a aussi qu'on veut... C'est aussi pour ça qu'on veut lancer aussi des jeunes, parce que c'est aussi quand on est jeune qu'on se fait bananer, quoi.
Oui, oui, oui. Ouais.
Voilà.
Merveilleux. Est-ce que tu auras un petit mot de la fin?
Non. Non, bah j'ai le mot de la fin. Bah merci de m'avoir invité. Et puis voilà, j'espère que
ah, ça va donner la banane à tout le monde là, je le sais, la patate là, les gens vont la voir là, ils vont ressortir de là.
Bah j'espère que le projet va marcher, il marche déjà, donc on est déjà dans quelque chose qui est nous on nos objectifs pour l'instant sont remplis puisque chaque personne qui a fait son crowdfunding là, on en est au 5e je crois. Tout le monde a réussi. Tout le monde a des beaux crowdfunding, tout le monde va pouvoir monter son livre. On a réussi à trouver des équipes super capables et super performantes pour chaque auteur. Chaque auteur est content de ce qu'il a fait. Donc pour l'instant,
vous avez le vent en poupe.
Bah disons, la première partie du jeu a été gagnée.
Ouais.
Maintenant, on va avoir la deuxième partie, c'est la distribution, c'est sensibiliser les libraires, c'est avoir des libraires qui nous commandent nos livres. Et ça, c'est quelque chose qui va plus exister à la rentrée, puisque cette plateforme, donc. Antoine a créé quand même à lui tout seul une plateforme de financement participatif, là où ils sont quand même 12 développeurs chez Ulule, hein. Nous on est, lui il est tout seul. Donc tout prend un peu plus de temps, donc mais cette plateforme, j'espère bien qu'elle sera fonctionnelle à la rentrée, et de toute façon que des libraires vont commander nos livres. Là de toute façon on a que deux sorties en juillet, et puis après à la rentrée on va en avoir quelques-unes. Et j'espère que les libraires suivront, parce que pour moi, si les libraires suivent, on aura vraiment gagné, je pense, le pari.
Voilà. Bon, bah c'est tout ce qu'on te souhaite.
Moi aussi.
Allez, merci beaucoup, Lisa. C'était merveilleux.
Merci. C'était ma discussion avec Lisa Mandel, enregistrée à Marseille avec son chat. Merci, Lisa, pour ton temps. C'était top de découvrir tout ça. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le lui dire en la suivant sur les réseaux sociaux et en lisant ses bandes dessinées, que ce soit sur Instagram ou en livre, Lisa n'est pas avare en contenu, donc vous aurez largement de quoi vous régaler. Vous pouvez également suivre les éditions exemplaires sur Instagram ou visiter leur site officiel. Et puis, si vous êtes charmé par tout ça, pourquoi ne pas soutenir un projet de votre choix via les différents financements participatifs proposés? Pour sûr, voilà un modèle économique qui en inspirera plus d'un. Et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage de Crocuit, qui aimerait vous dire deux mots au sujet du Patate Club.
Salut, c'est Crocuit. Je suis illustrateur et je fais partie du Patate Club. Je soutiens financièrement Jérémy sur Patreon parce que j'adore son podcast et que je souhaite le voir continuer. De plus, être membre du Patate Club me permet de profiter pleinement du Discord avec des gens au poil qui m'offrent un vrai support dans ma vie d'illustrateur, mais aussi de figurer sur le site du collectif Patate. Les participations débutent à 2€ par épisode et cela vous donne accès aux enregistrements en avant-première. Sans oublier le Patate Club Podcast, un podcast bimensuel et exclusivement accessible pour les Patreons, enregistré en duo avec Laurent Bazar, avec débrief du dernier épisode de Sens Créatif et des sujets abordés sur le Discord, plus les coulisses du podcast. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com/senscreatifpodcast. Sens Créatif, c'est aussi une communauté bienveillante de créatifs qui s'encouragent, s'inspirent et échangent les uns avec les autres, notamment sur la plateforme Discord. Le Discord, c'est un peu comme un atelier rempli de créatifs, toujours là pour s'entraider et partager. Pour rejoindre le Patate Club ou le Discord, retrouvez les liens dans les notes de cet épisode.
Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à mettre un commentaire ainsi que quelques étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de faire connaître Sens Créatif. Pour ne plus jamais louper un épisode, pensez également à vous abonner sur vos applications de podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux ou à rejoindre ma newsletter. Vous trouverez toutes les infos ainsi que les notes de chaque épisode sur senscreatif.fr. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez tous jeter un œil sur ses réseaux sociaux @AdrienGuyMusique ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne reprise et surtout, mange des crêpes. Ciao, ciao.